Bonjour, je suis Steve.
Et moi, je suis toujours Monsieur Nebunny.
Et vous écoutez Comic City. Épisode numéro 37 de notre podcast.
Je confirme, je confirme.
J'allais dire 35. 37.
Je valide, bon, ouais, non, c'est ça, c'est le 37.
Ouais, ça commence à défiler au compteur et je commence à me perdre dans les chiffres. Pas bien. Encore un podcast en mode vacances, donc un podcast un peu plus court. On zappe deux numéros cette fois-ci, enfin deux kiosques Marvel, Astonishing X-Men et Wolverine. Astonishing voilà. Étant très moyen et Wolverine, on s'en fout.
En gros, c'est ça, oui. On viendra à Wolverine quand ce sera un peu mieux, parce que là...
Ouais. Puis voilà. Bon, faut dire qu'on l'a pas lu depuis 3 mois, donc voilà.
Oui, ça nous manque pas, donc bon.
Voilà, c'est réglé. On va pas perdre de temps, on va attaquer tout de suite par les news ciné. Bon, pas beaucoup de news, hein. C'est le post-Comic-Con, il y a un gros relâchement au niveau des États-Unis et on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent.
Ouais, il y aura peut-être plus de news côté VO, mais en attendant, côté VF... Ce qu'on peut vous dire, c'est que après Kick-Ass, eh bien, Nemesis va être adapté au cinéma.
Bah, c'est ce qu'on pressentait depuis le début, hein. Tu nous l'avais dit dès que t'avais parlé de Nemesis. Alors,
ça c'était sûr, mais c'est Tony Scott qui va réaliser Nemesis. Mm-hmm. Alors Tony Scott, pour te dire, on a tous vu Top Gun,
ouais. Donc,
voilà, par exemple. C'est aussi Ennemi d'État, Spy Game. Mais c'est aussi des trucs comme Déjà Vu ou Man on Fire. Alors, je sais pas si tu as vu tout ça, Steve.
Déjà Vu, moi j'ai trouvé ça très bien. Mm-hmm. Man on Fire, j'ai trouvé ça plutôt pas mal non plus. Top Gun, ouais, bon, bah, c'est Top Gun. qu'est-ce que tu m'as cité avant
Spy Game.
Spy Game, je ne l'ai pas vu.
D'accord.
Voilà, c'est ce que je le sais. Avec Robert Redford et Brad Pitt, je crois.
Oui, je crois, ouais.
Et tu m'en as cité un autre, je ne sais
pas. Ennemi d'État, mais Ennemi d'État, il y a tellement de films qui s'appellent comme ça, je ne sais pas.
Ouh là là, lequel c'est? Non, c'est pas le truc avec Will Smith, si c'est ça, c'est plutôt pas mal.
Ah, tu penses avec ce vieil acteur, je ne sais plus comment il s'appelle. D'accord. Le truc où ils se tuent tous à la fin, quoi.
Allez, boum, prends ton spoil.
On s'en fout, c'est peut-être pas ça, de toute façon.
Oui, c'est peut-être pas ça. Puis bon, c'est un film vieux de 10 ans. Donc...
Bon, il a fait aussi True Romance, par exemple.
Ouais.
Alors, je sais pas si ça te dit quelque chose.
Oui, 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 avec Christian Slater.
Et Domino.
D'accord, celui-là, je l'ai pas vu.
D'accord, voilà. Et The Fan aussi, avec Wesley Snipes.
Mmh. J'ai vu ça il y a longtemps, je me rappelle même plus.
Et le studio, c'est 20th Century Fox. Alors, attention, parce que 20th Century Fox, c'est les 4 Fantastiques, Daredevil, Elektra, quoi.
Ouais, enfin, c'est aussi pas mal de bons films dans leur longue carrière.
Oui. Non, mais niveau comics, adaptation comics, c'était pas forcément tout à fait ça.
Tony Scott, on a pu le retrouver aussi à la production avec son frère Ridley de la série Numbers.
Ah, d'accord, oui. Ok. Voilà. Donc voilà pour Nemesis, en tout cas. Et une petite rumeur, alors une possible adaptation au cinéma de Iron Fist.
Mm-hmm.
Donc Iron Fist, mais ce serait réalisé par Louis Leterrier, le Frenchie, donc qui a réalisé l'incroyable Hulk et le Choc des Titans tout récemment. Alors je sais pas, j'ai entendu le plus grand mal du Choc des Titans.
Moi aussi.
Donc voilà. Mais néanmoins, le Choc des Titans a réalisé quand même 492 millions, je crois, au box-office. Alors je ne sais plus si c'était cumulé ou si c'était juste sur le territoire américain. Ça me semble déjà énorme.
Je pense que ça va être cumulé. Hein.
Ouais. Oui, surtout pour ce film quand même. Mais donc voilà. Donc bon, en tout cas, s'il réalise Iron Fist, en tout cas Marvel doit s'en frotter les mains puisque ça pourrait être un truc assez rentable.
Et puis il a déjà bossé avec le studio en ayant bossé sur Hulk, donc ils le connaissent.
Ouais, exactement. Donc bon, à surveiller encore. Hein, y a énormément de rumeurs à chaque fois. On en a toutes les semaines quasiment sur un nouveau film Marvel. Donc évidemment, tous les films ne vont pas aboutir, on s'en doute un petit peu aussi.
On attend encore le film du Docteur Strange qu'on nous promet depuis plus de 10 ans.
Et justement, ouais, le film du Docteur Strange qui devrait être peut-être le premier film Disney Marvel, en fait, faut voir. Voilà, bon, pardon. On verra.
C'est pas bien de rigoler comme ça en plus, oh là là.
Non mais ce serait bien, il y aurait peut-être des chansons aussi dans Docteur Strange. Ah, je ne trouve pas le bâton de Walton.
Mais où est mon œil?
Et Dagamoto. Capitaine Norman lui répond enchanté, qui sort la tête de sa dimension. Non, non, ça pourrait être super.
Il va nous embaucher en tant que scénariste.
Bon, je pense, ouais. Là, on a vraiment des idées. Bankable, en tout cas.
C'est peut-être du fait qu'on n'enregistre pas le podcast à la même heure que d'habitude et que ça nous déraille un peu. Ça
Ouais,
nous
ça.
déphase plutôt. Ça nous déraille, ça veut rien dire.
Oui, mais enfin, je pense que non. Je pense qu'on est toujours dans le même ton, malgré tout. Alors, rien à ajouter niveau ciné, Steve, hein, de ton côté.
Moi, de mon côté, j'ai juste une petite news qui fait ciné plutôt télévision comics.
Ah oui.
Zinscope qui a adapté, enfin qui vient de sortir un comics sur la série Charmed, pour ceux qui auraient regardé Charmed à l'époque où c'est passé, ou par les nombreuses rediffusions.
Oui, aussi.
Donc Charmed numéro 1 est sorti il y a 3 semaines, un mois, quelque chose comme ça. Et Zinscope a annoncé qu'ils avaient sold out les 17 000 copies qu'ils avaient mises à l'imprimerie
Ouais.
en trois seulement 3 semaines.
Ah bon, d'accord, donc ça marche super bien
Ben,
finalement,
ça a plutôt
Charles.
pas mal marché. Il y a encore donc une solide base de fans apparemment.
Bah, en tout cas, les Buffy vendent très bien depuis des années quand même.
Oui, c'est sûr. Et puis bon,
Donc voilà, donc
en plus il y a quand
ça.
même quelques personnes assez connues qui passent sur Buffy, donc ça aide aussi. Là par contre, je sais pas du tout qui est ni au scénario ni au dessin. J'ai pas regardé.
C'est Jeff Jones, c'est.
En tout cas, la chose qu'ils promettent chez Inkscope, c'est que le numéro 1 sera de nouveau disponible, parce qu'ils ont relancé un second printing, il sera de nouveau disponible avant que le numéro 2 sorte, dans 3 semaines.
D'accord.
Donc c'est bien pour eux, quoi.
C'est très bien, surtout pour les fans de Charmed,
Bah,
voir
ça
leur
montre qu'une série
série.
qui s'est arrêtée, qui a maintenant pas mal d'années, a toujours une base solide, et c'est plutôt pas mal. Si
Ouais.
ça peut attirer d'autres personnes vers le comics, hein, c'est toujours un bon
Je sais
point.
qu'il existe encore des comics X-Files de temps à autre,
Ouais.
mais par contre, je ne suis pas sûr de ce que ça donne. Donc voilà. Mais bon. Bah, on passe au reste des news. Donc les festivals. Les festivals, le Lille Comics Festival, Steve.
Le LCF, oui.
Donc le Lille Comics Festival, oui, qui a annoncé son invité d'honneur. Et cette année, en 2010, l'invité d'honneur, c'est François Yoeutli.
Alors, en espérant que ça ne nous fasse pas comme les invités d'honneur du Comic-Con, hein.
Ouais, comme Jeff Loeb et Jeff Jones, que
Ça
Franco
doit être
Iocchi ne soit pas
avec le prénom.
promu Art Major Master of the Marvel Universe, je sais pas quoi. Parce que là, ce serait problématique, effectivement. Donc bon, alors pour rappel, hein, Franco Iocchi, c'est All-Star Superman, c'est les X-Men que tu as adoré, Steve.
Ah oui, j'ai adoré. Ouais.
T'as adoré. Cassandra Nova et tout. Hein,
Ouais,
t'as beaucoup
magnifique.
kiffé ça.
Magnifique. Que de bons souvenirs.
Que de bons souvenirs pour Steve. Bah, moi j'ai bien aimé cette période. Bon.
C'est aussi bah, Batman et Robin que vous allez découvrir en français bientôt, dans les prochains mois.
Et The Authority.
Aussi, oui.
Donc voilà, et puis d'autres choses aussi. Et voilà, donc un grand artiste quand même, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style, je veux dire, bon, c'est quand même un artiste qui a quand même fait son. Enfin, qui s'est fait toute une renommée, quoi, avec les
Et
années.
puis bon, il aura laissé sa marque dans les comics pour des années et des années à venir encore.
Ouais,
Et
c'est
puis il n'a
clair.
pas fini de nous étonner, je pense.
Et donc toujours G.H. Williams 3 et plein d'autres, hein, aussi, hein, qui ont été annoncés et qu'on a déjà annoncé au fait
De toute
lors
façon,
de
on
précédents
en
numéros.
reparlera dans de futurs numéros. On vous rappellera qui vient.
Et qui ne vient pas à 2 jours du festival, peut-être.
On va suivre cela en tout cas avec beaucoup d'intérêt.
Voilà. On va tout de suite passer à un autre festival, juste pour dire que, eh bien, les 18 et 19 septembre 2010 se tiendra Porte de Versailles à Paris, le Paris Manga et Sci-Fi Show, enfin Paris Manga Show, en fait, on dit tout simplement, mais il y a aussi de la science-fiction. Et bah, il y aura un certain nombre de personnes, en fait, dont des scénaristes et des artistes comics. Alors, il y aura Barry Kitson, qui est décidément bien venir en France.
Mais je crois qu'il habite en Angleterre, c'est pour ça aussi, c'est plus
Oui,
facile pour lui.
voilà, c'est ce que tu me dis. Mais à chaque fois, tu me sais.
Mais c'est
On
vrai que
radote,
oui,
on radote.
il aime bien venir en France.
Voilà. Et donc, il y aura nos amis français, Phil Bryant, et Paul Renaud aussi. Paul Renaud sera là.
D'accord.
Mais surtout, en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il devrait normalement y avoir Bob Layton. Bob
Ah
Layton,
oui.
c'est quand même un artiste super classique. C'est Iron Man.
C'est les X-Factor aussi.
Oui.
Pas
C'est
la première
énormément.
série. Hein. Bon, il y a eu tellement de choses, il a fait tellement de choses dans sa carrière que. Voilà.
Donc
Mais c'est
voilà,
vrai
donc
que.
s'il est là, il y a quand même du beau monde. Il y aura aussi Charles Vess qui avait fait un petit peu de Spider-Man, je sais pas si tu te souviens, il avait fait un graphic novel, je crois. qui s'appelait je ne sais plus. Voilà.
Je me demande si c'était pas Ruins.
Ah peut-être, oui, exactement. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, voilà.
T'as vu cette mémoire un peu?
Ouais, impressionnant, impressionnant. Bon, et puis il y aura d'autres personnes, en fait, il y aura des acteurs, par exemple, il y aura le fameux acteur qui joue R2-D2. Oui, parce qu'il y a quelqu'un dans R2-D2, en fait, dans les Star Wars. C'est voilà, un
C'était pas de la
acteur.
synthèse à l'époque.
Ouais, voilà, c'est un acteur qui rentre dans ce petit costume, enfin dans ce petit robot, on va dire. Et le monsieur a quand même 75 ans. Je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, donc il y aura
Lui aussi
quelques.
habite à Londres, donc c'est aussi un peu plus facile pour lui de venir en France que d'aller aux États-Unis, par exemple.
Voilà. Donc c'est une sorte de manga, enfin de pas de qu'est-ce que j'en compte, de une sorte de Japan Expo un peu bis, hein. Sauf que, eh ben, ça a le mérite d'être porte de Versailles et que c'est à côté de chez moi, donc je m'y intéresse déjà beaucoup plus, tu vois.
Et peut-être même que tu iras y faire un tour.
Ah peut-être, ouais. Peut-être, peut-être. Peut-être que je pourrais
Comme les
essayer de.
gens ne te connaissent pas, ils ne sauront pas qui tu es.
Faudrait pas que je
Incognito.
parle. Faudrait juste que je
Incognito.
reste muet. Donc je ferai pas d'interview. En fait, je ferai des interviews avec le langage des signes. Par exemple, si
Interview
je
écrite.
rencontre Brian's, je devrais lui l'interviewer avec le langage des signes. Sinon, c'est moi, Benny.
Ok, très bien. Bon, bah en tout cas, c'est un petit programme alléchant, quoi. C'est pas mal, hein. Encore un petit festival où il y a quelques noms de comics, c'est toujours sympathique.
Ah ouais, non, mais c'est clair. Donc voilà, donc comme quoi. Il y a quand même pas mal de choses autour des comics et ça intéresse quand même quelques personnes, quoi, en ce bas monde.
C'est bien, finalement, ça montre que voilà, ça se développe. Et, il y a de ça 10 ans, il n'y avait pas autant de choses, quoi.
Ah non, c'est clair. Ouais. C'est la 10e édition, hein. Je sais pas si je l'ai dit déjà.
Ah non, je savais pas. Je pensais même pas que ça existait depuis 10 ans.
La 10e édition du Paris Manga Show, mais par contre, avant, est-ce qu'il y avait des comics? Je ne sais pas, hein. Ça, j'en suis pas sûr. Je crois qu'ils ont rajouté la mention science-fiction aussi, donc voilà.
D'accord, très bien. Bon, bah c'est tout pour les news. On va commencer les reviews VF de cette première quinzaine. Et on commence avec le X-Men numéro 163. Les deux premiers épisodes, ce sont les Uncanny X-Men numéro 515 et 516. Le scénario est de Matt Fraction, les dessins sont de Greg Land et l'ancrage de Jay Layston.
Allez, plus vite, Steve, maintenant, tu le refais encore plus vite.
Je veux pas perdre de temps, alors.
Non,
Hop.
je sais, bon. Alors, allons-y. Alors.
C'est tout simplement la suite à Utopia.
Oui.
Les retombées de cette isolation des mutants sur cette ancienne astéroïde M qui est maintenant leur nouvelle base.
Voilà.
Et donc, bah maintenant, Scott doit tout gérer.
Voilà, exactement. On voit un peu, en fait, il fait le compte, quoi, de. Enfin, il règle plutôt ses comptes, quoi, dans la première partie, c'est-à-dire que il fait le point sur la situation, comment ils vont tous vivre ensemble sur cette île. Donc, on assiste, bah, par exemple, Scott va revoir le maire de San Francisco.
Pour essayer d'avoir droit de retourner sur San Francisco sans se faire arrêter, d'avoir de la bouffe,
Voilà.
ben voilà quoi, tout ça. Donc c'est vraiment une direction plus politique, je trouve, aux X-Men. Et moi, en tout cas, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. À voir si ça
Ouais.
va continuer dans cet esprit-là, mais en tout cas, cette espèce de changement de direction vers un côté plus gestion de ressources, gestion de d'une sorte de pays en fait. C'est pas réellement ça, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça, en tout cas, ça part bien.
Bah, au fait, ça part bien, et je dirais justement le problème, c'est
Ça part
l'arrivée.
trop bien. C'est ça?
Non, enfin c'est moi ça m'intéressait jusqu'à l'arrivée de tu sais qui, alors que c'est censé être l'événement quand même de ce, enfin de ce, enfin de pas de ce crossover, de cet arc, je veux
Ah
dire.
bah moi, justement, son retour m'a vraiment plu. Et j'ai pas trouvé ça, au contraire, tu vois, comme qui tombe comme un cheveu sur la soupe.
Bah.
À part peut-être l'explication des
Non,
pouvoirs
enfin voilà, non
revenus.
mais c'est le problème, c'est que bon, je sais pas, ils doivent être vraiment dupes, les X-Men, parce que le mec arrive, à nouveau, il est tout sympa. La dernière fois, il a voulu tuer Xavier, la dernière fois qu'on l'a vu.
Bah c'est pour ça
Là,
que
il.
Xavier d'ailleurs est contre son retour.
Oui, exactement, oui. Mais pour le coup, là, je comprends bien la décision de Xavier. Et puis, je sais pas, moi je me dis, il reste jamais gentil bien longtemps, quoi.
Mais c'est marrant hein, parce que Fraction essaye toujours de faire passer Xavier pour le méchant. Je sais pas si t'as remarqué dans son
Ah, tout à fait,
écriture,
ouais.
il fait vraiment, il donne vraiment la belle part à Scott et essaye de faire passer Xavier pour le méchant. En tout cas, moi voir ce personnage au service de Scott m'intéresse vraiment beaucoup.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui manipule l'autre, quoi. Est-ce que fait pas semblant et n'a pas l'ascendant, en fait, sur Scott, tu vois, ça pourrait être intéressant quand même.
Bon, par contre, je vais juste revenir à un petit épisode qui était paru il y a ça 2 mois, je crois, ou c'était peut-être le mois dernier, je ne sais plus. Dark X-Men The Confession.
Ouais.
où Scott et Emma faisaient la paix. Oh, on n'aura plus jamais de secret l'un
Ah
pour
ouais, c'était
l'autre.
peut-être il y a deux
Oh,
mois
je
maintenant quand même.
t'aime. Oh là là, mon Dieu. Et puis bah du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle lui cache un truc. Je savais bien que ça durait pas longtemps.
Ah oui.
Cette fameuse prison pour réhabiliter les mutants.
Oui,
Et d'ailleurs,
effectivement.
quand tu vois qui est enfermé dedans,
Oui.
ça peut laisser présager des histoires. Je sais pas. On verra bien. La chose la plus marquante aussi dans ces deux épisodes, c'est vraiment la fracture qui s'agrandit entre Beast et Scott. Vraiment, les deux ne peuvent plus se voir l'un l'autre.
Ouais,
Ils
c'est
se
vrai, il y en a.
comprennent plus, ils n'arrivent plus à discuter.
Et c'est pour ça que je te dis, on sent quand même que petit à petit, Cyclope lisse, quoi, depuis des mois, vers un truc un peu plus dark, quoi.
En tout cas, moi, franchement, ces deux épisodes m'ont vraiment emballé. C'est tellement rare sur les X-Men que je trouve qu'il faut vraiment le souligner. Et j'attends de voir la suite, j'espère ne pas être déçu.
Ouais, non, c'est clair que c'est quand même plus intéressant que d'habitude. On sent qu'il va se passer des choses, mais j'espère qu'il va vraiment se passer des choses et que ça va pas stagner ensuite à nouveau.
Alors, ce qui m'ennuie un peu, par contre, c'est cette histoire avec Scalpunter et les cinq Predators, quoi.
Ouais, parce que franchement, Scalpunter, déjà, point de vue personnage, il est pas super charismatique. Et je sais pas où ça va encore nous mener cette histoire, mais ouais.
Ouais, bah moi c'est le fait qu'il y ait 5 prédateurs, ça me gêne, quoi.
Ouais, je sais pas, faut voir. Ouais. Je pense que la fin de cet arc va clôturer cette intrigue. Enfin, j'espère. J'espère que ça va pas trop traîner en longueur, mais non, enfin bon, je sais pas là. Mais ce qui est étonnant quand même, juste un truc, c'est que je trouve que Fraction est quand même, enfin, écrit des trucs quasiment à l'opposé de ce que fait Mike Carey sur Legacy, parce que tu vois, il y a quelque temps, il y avait aussi le rapprochement, enfin même Cyclope qui pardonnait un petit peu toutes les erreurs qu'avait fait Xavier. Et là, on sent à nouveau qu'ils sont plus du tout sur la même longueur d'onde quand c'est Fraction qui les écrit.
Ouais, c'est bien pour ça que je te disais que j'ai autant Mike Carey essaye de rendre grâce à Xavier, autant Fraction, lui, le fait vraiment passer pour le méchant,
Ouais,
en mettant
totalement. Ouais.
Scott en avant. Donc c'est ce problème de multiples scénaristes, quoi.
Effectivement, là, ça s'en
Puis bon
ressent
bah
d'autant plus, quoi.
problème c'est qu'en plus comme Xavier n'est plus vraiment dans les pages des Legacy, voilà. On n'a plus
Ouais.
vraiment cette balance entre les deux côtés, quoi. Donc là
Ouais.
maintenant on va avoir un Xavier plutôt du côté mauvais. Entre guillemets, en tout cas aux yeux du lecteur, puisque Scott est le personnage principal. Donc voilà, espérons que ça va pas repartir un petit peu dans tous ces vieux travers d'il y a maintenant 2-3 ans qui commencent à devenir un petit peu rébarbatif à
Ouais.
relire. Mais en tout cas, donc bah j'attends le mois prochain. J'attends de me voir. Moi, je suis presque impatient de lire la suite. Ce qui est même pas arrivé depuis très longtemps sur X-Men.
Ah, moi aussi, ouais, non, quand même. C'est, je te dis, mais j'ai peur quand même que ça accouche d'une souris, comme d'habitude, mais on va
Ce problème, c'est que généralement, quand les X-Men sont vraiment très bons, ça leur reste pas longtemps.
Bon, en tout cas, on continue sur une série super passionnante.
Dark X-Men numéro 1 de 5 mini-série, donc en 5 parties, scénarisé par Paul Cornell, au dessin Leonard Kirk et à l'ancrage encore Jay Lacen. Donc, moi, franchement, voilà. Pour moi, quel était l'intérêt de faire une mini-série sur les Dark X-Men? On a déjà eu une première mini-série en 3, la The Beginning, qui montrait comment ils sont arrivés aux heures de Norman, qui m'avait absolument pas passionné. Là, j'ai lu ça en me disant, oh là là, ça va être une merde. Et à part la dernière page, j'avais raison.
Voilà, non mais c'est ce que je disais. Au fait, c'est faut bon. Honnêtement, j'ai trouvé ça moins calamiteux que ce qu'on a pu avoir au début, enfin avant avec les Dark X-Men. C'est quand même meilleur là, comme commencement. C'est plus intéressant, on va dire. Mais c'est
Ouais.
surtout par rapport au retour du personnage à la fin. Donc bon,
Voilà.
on va pas dire qui c'est parce que
On va pas dire qui c'est. À la
quoi que,
rigueur,
on
je
peut
vous
comprendre.
dirai juste pour arriver à comprendre pourquoi, relisez peut-être des vieux comics.
D'accord, super indice. Lisez des vieux comics et vous comprendrez. Mais en tout
Relisez,
cas,
relisez sa série et vous verrez la fin.
ouais. En tout cas, les Dark X-Men maintenant, juste pour le dire, bon, ça consiste en quatre personnages, quoi.
Ouais, équipe qui se réduit, incroyable.
Oui. Voilà. Donc on a Dark Beast, Mystique. On a, je sais plus comment il s'appelle, mais son nom, je me souviens de son nom civil, Michael Panther, je crois,
Ouais,
c'était.
c'est Oméga quelque chose.
Voilà, Omega Truc qui a affronté les New Avengers au début du run de Bendis. Et il y a Mimic qui est un vieux de la vieille, qui est vraiment un mutant qui apparaissait dans les premiers numéros d'X-Men à l'époque de Stan Lee, quoi. Bah voilà. Donc
À
bon.
noter quand même que Mystique prend comme apparence civile la tête à Jean Grey.
Oui. Et il s'adresse à Norman Osborn, que j'ai pris franchement, enfin en feuilletant le truc, je me suis dit, tiens, il y a Harry Osborn dans l'X-Men. Ah oh, tiens, il parle à Mary Jane. Pas du tout. Pas du tout, en fait, tu vois. Je me suis dit même à un moment, putain, ils ont mis une page de Spider-Man, Panini, ils ont encore déconné, ils ont mis une page de Spider-Man dans les X-Men.
Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, en fait, c'est l'espèce de ton humoristique qu'essaye de donner Paul Cornell à tout ça. Et enfin, en tout cas, moi, ça me séduit pas du tout. Ça me laisse de glace.
Oui, moi aussi. C'est-à-dire que, par exemple, sur un personnage comme Dark Beast, tu te dis, mais non, c'est pas possible.
Voilà.
Donc, ça colle pas, quoi.
À voir où ça va aller, quoi. En tout cas, à part ce retour, comme on disait, pour le moment, pas grand-chose d'intéressant. Même si c'est quand même un peu mieux que ce à quoi je m'attendais.
Oui, non, c'est quand même mieux que la première mouture de l'équipe qui servait à rien, si ce n'est que d'avoir un truc qui s'appelle Dark X-Men. Là, ils prennent un peu plus de consistance quand même.
Ok, on passe au dernier épisode du mag, c'est le New Mutants volume 3 numéro 5. Le scénario est de Zeb Wells, les dessins sont de Zachary Baldass, et avec des couleurs, parce que là, faut le souligner, de James Campbell.
Bon.
Parce
moi,
que là,
je
les couleurs
clair.
Sont quand même, franchement, une partie intégrante à l'histoire, je trouve.
Ouais, enfin moi c'est pas mon type de dessin. Alors je sais que tu vas peut-être gueuler parce que...
Oh, non, chacun ses goûts.
Je sais pas, non, mais je sais pas, tu vas peut-être me dire qu'il y avait des anciens épisodes de New Mutants qui étaient un peu dessinés comme ça.
Ouais.
Je sais pas, moi ça m'a fait penser à d'anciennes couves que j'avais vues des New Mutants, alors je les ai pas tous lus, donc je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà des épisodes très anciens qui étaient un petit peu dessinés comme ça. À l'époque ça devait être Bill Sienkiewicz qui était sur les
oui.
New Mutants.
Oui. Voilà. À l'époque de Warlock, déjà Warlock dont c'est le retour.
Voilà.
Et puis bah avec une dernière page aussi très très choc, je trouve.
Ouais, très énigmatique.
Quand on connaît la relation des personnages entre eux, notamment grâce à New Mutants, c'est super choc. Voilà.
Ouais.
Sinon, bah c'est vraiment un épisode qui fait la transition entre l'arc qu'on vient de lire et le futur crossover Necrochat. Donc le début.
Totalement.
Sera
non, c'est exactement ce que je voulais dire.
Une partie dans le New Mutants 6. Puisqu'il y a une sorte de débriefing avec la psy des X-Men, la docteur hindoue, dont je n'ai plus du tout le nom, qui essaye de voir un petit peu...
Tao, je ne sais plus quoi, là, qui habite à Tao, non, je ne sais plus quoi.
Ah, je ne sais plus du tout.
C'est qui habite à Tao? Non, je ne sais plus.
Oh la vanne.
Non, mais je ne sais plus, je crois
c'est,
que c'est...
C'est pas grave.
Oui, je sais pas.
Et donc elle essaye de voir un petit peu les dégâts qui ont été occasionnés sur Xian et sur Ilyana. De par le fait d'avoir été dans la tête de Légion, d'avoir tué des gens, etc. Et on apprend ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de la tête de Légion, et ça continue à être vraiment super glauque.
Oui, c'est assez malsain, et c'est pas du tout une série, comment dire, pour les enfants, quoi.
Ah non, clairement pas. On a aussi Danny et Sam qui règlent un petit peu leur compte, puisqu'ils voulaient plus de Danny dans l'équipe, puisqu'elle n'avait pas de pouvoir pour simplement la... Lui, il pense la protéger en faisant ça, mais elle veut pas être protégée comme ça, enfin bon. Ils règlent leur compte tranquillement. Et justement, je trouve que les dessins, et notamment ces couleurs, un petit peu façon crayon de couleur, collent vachement bien avec l'atmosphère de l'épisode, où finalement, il se passe pas grand-chose comme scène d'action, c'est beaucoup plus dans les dialogues qu'il se passe des choses.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est vraiment un épisode d'introspection des personnages, au fait.
C'est assez lent, mais finalement, il se passe vraiment, vraiment pas mal de trucs. Donc, je sais pas, moi, j'ai vraiment été emballé par cet épisode, et j'ai trouvé ça excellent.
Mais c'est marrant comme quoi les séries au fait sur des jeunes super-héros, surtout New X-Men, etc., c'est toujours assez comment dire, c'est une ambiance en général assez noire et assez apocalyptique, quoi. Donc pourtant,
je trouve que ça va loin quand même, hein, dans le
parce
que c'est pas dit clairement ce qui s'est passé avec la gamine. Mais si tu lis entre les lignes, quoi, enfin, t'arrives à comprendre. En tout cas, tu te fais ta propre idée des choses. Donc,
Ouais. Est-ce que New Mutants avant c'était comme ça aussi glauque ou
Il y avait des passages glauques, mais pas autant. Mais là, c'est vrai que c'est poussé. Puis c'est le passage à l'âge adulte. On se rend compte que le monde n'est pas forcément ce qu'on espérait quand on était plus jeune. Moi, je sais pas. C'est vraiment rondement mené et j'aime beaucoup ce que fait Zeb Wells, en tout cas sur New Mutants.
D'accord.
Sur New Mutants. Ailleurs, je suis pas forcément fan toujours de ce qu'il fait. Hein.
Bon, enfin, en même temps, on le voit pas non plus super, super souvent. Enfin, il n'est pas souvent sur une série régulière, on va dire.
Moi, je continue d'être vraiment surpris par New Mutants. Franchement, c'est une série auquel je n'attendais vraiment rien, mais rien. Je me suis dit, c'est vraiment pour faire marcher le nom, puisque le côté oldies a vraiment le vent en poupe en ce moment, et on ramène des vieilles séries. Et ben là, franchement, je me suis vraiment trompé. Je pensais que c'était vraiment une daube, et non, je suis vraiment, vraiment surpris. Et puis bon, la suite, c'est Nécrochat.
Oui. Donc, de toute façon, c'est surtout les petites séries mutantes qui, finalement, nous font les grandes histoires. Donc, ça
beaucoup
peut être
plus
un peu plus
que les séries principales, ouais. Ouais. Effectivement.
Bon, enfin, à voir si Nation X tient ses promesses.
Ouais. Bien, on va passer à la suite. Et la suite, c'est le Spider-Man numéro 127. 3 épisodes seulement dans ce numéro, mais un double. Les deux premiers, ce sont les Amazing Spider-Man 603 et 604, le scénario de Fred Van Lente, les dessins pour le 603 sont de Robert Atkins, ancré par Victor Olazaba, et pour le 604, c'est Barry Kitson, dessin et ancrage. Donc c'est la suite de cette histoire sur le caméléon.
Ouais.
Alors, dans le premier épisode, c'est vraiment le caméléon qui est le narrateur, parce que c'est tout l'épisode où il a l'apparence de Peter, et c'est lui que l'on suit. On suit vraiment que Peter. On voit pas une seule fois Spider-Man dans cet épisode. Ouais. Peut-être dans des flashbacks et encore.
Mmh.
Et il a plutôt des bonnes réflexions sur Peter. Les choses qu'on se dit, nous, lecteurs de comics, et que personne n'ose jamais dire dans la série. Ça m'a fait un petit peu marrer.
Ouais.
Notamment le fait qu'il tourne qu'autour de femmes qui sont superbes, sans jamais s'en choper une.
Ouais, voilà, exactement.
D'ailleurs, on voit les dégâts qu'il fait dans la vie de Peter.
Ouais, qui sont assez colossaux, puisqu'au fait, ce caméléon, enfin, cette version du caméléon a la particularité de vouloir, au fait, rendre service, entre guillemets, à ses victimes, quoi, aux personnes dont il prend le visage.
Ouais.
Dont il emprunte le visage, au fait.
Sauf que comme il les tue, en général.
Oui, oui. Ouais. Mais il veut laisser une trace, au fait, de lui-même, quand il les incarne.
C'est marrant, ce qui se prend à moitié d'amitié ou de remords, je sais pas, ce qui vraiment, ce qu'il ressent, quoi, c'est assez bizarre.
Mais en fait, moi, j'ai bien aimé ces deux épisodes, mais le principal reproche que je ferais à Fred Van Lente, c'est qu'encore une fois, on a l'impression que le caméléon ne sait pas du tout, enfin, ne connaît pas du tout les proches de Peter Parker, etc., alors qu'il a déjà pris maintes fois l'identité de Peter Parker, et il sait très bien qui est Tante May, Mary Jane et tout. Et là, on a vraiment l'impression que c'est la première fois qu'il découvre ces personnes-là, et voilà, quoi.
Ah, moi, ce qui m'a plus gêné, tu vois, dans cet épisode, c'est presque le fait qu'il travaille pour des terroristes. En fait, ça me gêne.
Rappelle-toi, en fait, dans le premier Amazing Spider-Man, le caméléon est un terroriste russe. En fait, bon, c'est un agent russe, quoi. Il travaille pour les Russes.
Bah, à l'époque, c'était la guerre froide.
Oui. Donc bon, maintenant, le terrorisme, c'est autre chose, c'est un autre visage, mais. Le caméléon a toujours eu ce côté un petit peu espion, terroriste, tu vois.
Mais de base, qu'il aille faire des bombes sales, ça me gêne.
Bon, moi, ça m'a pas tellement gêné, tu vois. C'est quand même un personnage qui, à la base, était plus ou moins, créé dans cette optique, quoi.
Disons que c'est ça, couplé avec notamment les réflexions de Jameson sur Obama, sans le nommer, hein, qui le traite de socialiste, ce qui aux États-Unis est une belle insulte. Hein. Oui, il faut savoir qu'aux États-Unis, socialiste, c'est une insulte.
Oui. Et communiste, c'est pire.
Oui, voilà, c'est encore pire.
Ouais.
Mais il y a une espèce d'ambiance politique que Van Lente essaye de donner. Alors, c'est pas que c'est mal, c'est juste que avec Spider-Man, on n'est pas habitué à ça, enfin pas tout le temps. Et je sais pas, je trouve que ça tombe presque comme un cheveu sur la soupe cette fois-ci. Peut-être un peu trop poussé. Je sais pas. En tout cas, moi, ça m'a pas accroché. Ce côté politique, vraiment. Appuyé et vraiment mis en avant.
Ouais. Et tu fais référence surtout au moment avec Flash Thompson, c'est ça?
En plus, il y a ce passage-là. Bon, il y a le passage avec les talibans, donc sur la guerre en Irak, etc. Enfin, toutes ces idées qui viennent dès qu'on parle des talibans, en tout cas aux États-Unis, c'est un peu tout ça qui m'a gêné. Je trouve que c'est un peu trop forcé le côté politique, enfin trop mis en avant pour une histoire juste sur Spider-Man.
Ouais, d'accord.
Alors que ça partait pas du tout dans cette optique-là.
Mm. Oui, voilà. Non, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté-là, mais moi, tu vois, ça m'a pas trop gêné. J'ai surtout bien aimé les passages où il y avait des quiproquos. Par exemple, le truc énorme, c'est quand même Peter Parker le caméléon qui se fiche de la tronche de Flash.
C'est
vraiment un moment, c'est quand même terrible, quoi.
C'est dégueulasse, quoi.
Oui, mais comment va-t-il faire ensuite quand il va reprendre son identité, sa vie? Pour réparer tout ça, quoi.
Et puis ce qu'il fait avec Michel, la colocataire.
Oui, alors ça c'est énorme.
Et avec Harry.
Et avec Harry aussi.
Le cliffhanger de fin du 603, je me suis dit, oh là là, comment il va s'en sortir?
Ouais. Alors par contre, comment il se sort du piège du caméléon, là, avec l'histoire de la cuve et tout, j'ai trouvé ça un peu.
Ah, c'est totalement naze.
Oui, c'est totalement naze, puisque rappelle-toi, normalement la cuve était pleine.
Oui,
Mais
déjà.
alors là, je ne sais pas pourquoi
Elle
la
était
cuve n'est
remplie qu'à
pas
moitié.
pleine, la remplir.
En
Enfin
plus,
bon.
il dit qu'il sait que bon, c'est ses réflexes qui lui ont permis de s'entoiler, etc. Il est tombé dans les pommes, mais sa toile s'est pas dissolue. Donc, toile plus acide, ça dure plus d'une heure.
Ouais, et puis en plus à la fin tu le vois comment il est sorti, quoi, comment il est sorti du truc.
Ouais.
Puisqu'il a bien fallu qu'il sorte de sa toile avant de sortir du machin, tu vois ce que je veux dire?
Non mais c'est là franchement l'explication est vraiment plus que par tiré par les cheveux.
Ouais.
C'est tiré par les poils arachnéens.
Mais t'as remarqué, à chaque fois qu'il y a un nouveau scénariste qui fait partie du pool, à chaque fois il tue Spider-Man, en fait il lui donne une fausse mort. Mais on sait
J'avais
très
pas
bien que c'est
remarqué
un
ça.
faux cliffhanger, tu sais qu'il est pas mort, donc ça devient un petit peu ridicule à
Ouais,
force,
bah
quoi.
comme je t'avais dit là, le mois dernier, j'attends de voir l'explication de comment il va s'en sortir, bah j'ai pas été
Voilà.
déçu, hein. Voilà, je suis un petit peu. Ouais. Bon, de toute façon, il fallait bien s'attendre à une explication un peu pourrave comme ça.
Ouais, non, c'est clair.
Puis bon bah ensuite, bah, comme d'hab, hein, Spidey saves the day. Il sauve la situation en allant. Bah, en s'en sortant, en apprenant que le caméléon fait une bombe, et puis voilà,
Oui,
c'est
enfin, de
tout
toute
ça.
façon, on va même laisser les lecteurs le découvrir pour ceux qui n'ont pas encore lu les histoires, mais enfin, moi j'ai plutôt bien aimé cet arc, honnêtement. C'est.
Le final est intéressant, autant le final pour Jameson que le final pour le caméléon.
Oui, mais pour tous les personnages autour de Peter Parker, parce qu'il a quand même bien secoué les choses. Mais enfin, ça change quand même des mois précédents, quoi. Enfin, des mois précédents. Il y a eu quand même un progrès, quoi, ces derniers temps.
Donc voilà, bon bah ouais, deux épisodes. Moi j'ai trouvé ça
Moyen?
distrayant,
Ouais.
sans plus. Voilà.
D'accord.
On passe au 605, sauf si tu as quelque chose à rajouter peut-être.
Donc, enfin, moi, comme le caméléon, j'aurais choisi Michel. Parce que j'aime bien son côté, toujours à gueuler et tout, puis elle est quand même sexy, Michel. Voilà.
Là.
Passons à la suite.
Alors, le 605, c'est donc un épisode double, encore un. Ils en font,
Ouais.
à mon goût, un peu trop souvent chez sur Spider-Man, mais bon, ça, après, c'est mon goût
Enfin,
personnel.
un épisode triple même, puisqu'au fait, il y a trois histoires. Enfin,
Ouais, c'est vrai, en plus. Ouais.
il y a trois actes, quoi.
Le scénario est de Fred Van Lanty et Brian Reed pour les diverses parties. Le premier chapitre est de Javier Pulido, le deuxième est de Luke Ross et Rick Meagher, et le troisième est de Yannick Paquette et Mark Farmer. Donc trois parties vraiment distinctes graphiquement, trois parties distinctes aussi au niveau du scénario. Bon, première partie, c'est la vie de Mary Jane avant son retour à New York, ce que j'ai trouvé pathétique.
Oui, puis grosso modo, on apprend qu'elle a quitté Spider-Man parce que, enfin, elle a quitté Peter Parker parce qu'elle supportait pas qu'il soit Spider-Man. Donc en gros, toujours la même rengaine. Ça fait 20 ans que ça dure. Et en gros, c'est les scénaristes, ils savent pas trop pourquoi. Donc voilà, elle sort toujours le même pitch, quoi. Oh non, tu risques de te faire tuer. Je supporte plus. Je m'en vais.
Puis bon, il y a des choses assez drôles, quoi, du genre. Enfin, assez drôles, mais pas drôles à mourir de rire, hein, au contraire. Drôle ironique, quoi. Elle est avec un autre mec.
Oui, le fameux Jason Kerr ou je sais pas quoi, qui a changé de tête d'ailleurs.
Et quand elle reçoit l'invitation pour le mariage, quand elle voit que c'est pas Peter, elle. Ouf! Bon, ouais, il faut savoir ce que tu veux, quoi. T'es avec Peter ou t'es avec un autre, quoi. Bon, je sais pas, tu choisis.
Effectivement.
Bon, voilà. En tout cas, sa première partie est écrite par Fred Van Lanty, hein, qui termine son retour de Mary Jane là-dessus. Ouais. Je sais pas, moi je me suis. Enfin, j'ai trouvé ça chiant.
Ouais, non,
Ouf,
sans grand intérêt. Bon, on voit
Le White Rabbit, quoi. Non,
le
mais
White Rabbit, voilà.
sérieux, quoi.
Le
Plus
White Rabbit.
pathétique. Oh là
Non,
là.
en gros, c'est Mary Jane Save the Day. Tu vois, c'est un
Ah ouais,
petit
non,
peu
mais c'est
ça.
ça, ouais. Le côté c'est moi qui m'en sors toute seule, j'ai pas besoin de Spider-Man, c'est naze, quoi. Je
Voilà.
sais pas, moi je me suis fait chier profondément sur cette première partie, et les parties suivantes m'ont pas remonté le moral non plus.
Ah non, moi j'ai bien aimé la troisième. Attends, on va y venir.
La deuxième partie, bon bah c'est un.
Alors là, c'est un truc vite fait au fait.
Ouais.
C'est surtout les conséquences un petit peu de l'arc précédent, puisqu'on assiste à la confrontation entre Michel et Peter Parker. Le vrai, cette
Ouais,
fois-ci,
le
pour
vrai.
changer.
Y a un truc marrant, c'est le défilé de modèles auquel ils assistent.
Oui.
Si tu regardes bien, ce sont que donc des personnages de l'univers Marvel, que des héroïnes,
Ouais.
mais ce sont que les héroïnes qui ont fait partie du cosplay du Comic-Con en 2009.
Alors là, c'est très fort. Ah, je savais pas. D'accord, ok.
C'est vraiment que les filles qui, enfin, sont qu'à les mêmes costumes, quoi, le costume de la Black Cat, le costume de la, Il y avait l'espèce de Captain America, il y avait pas mal de trucs, et c'était vraiment que ces images. J'ai essayé de
Ah bah
retrouver des photos du cosplay de 2009 et vous verrez, ce sont les mêmes.
d'accord, bah en fait il est sorti juste après
Bah oui, je pense que c'est un joli clin d'œil à ça.
Lucross a dû effectivement avoir les photos et s'en servir pour écrire cet épisode.
Oui, parce que ce sont en plus les costumes pareils, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours les cousines, donc
Oui.
les fameux cousines Riley de Peter Parker, qui sont des clones hein, de Betty Brant, de Liz Allen et de Mary Jane, hein, quand même.
Et puis une situation qui tournait bien pour Harry aussi.
Oui,
Oui.
oui. Avec celle qui ressemble à Betty Brant un peu. Voilà.
Voilà. On passe à la troisième partie, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus non
Non,
plus. Hein.
pas grand-chose. Donc c'est la partie de Brian Reed, qui m'a quand même fait marrer, moi j'avoue.
Ouais, c'est assez sympa, franchement. C'est la partie qui est la mieux des trois, mais bon, dans l'ensemble, pour moi, c'est un épisode triple qui se fout de la gueule du monde, quoi.
Ah bah attends de voir la suite dans les mois à venir.
Super, merci. Merci de m'avoir monté le moral.
Voilà. Allez.
Donc là, en fait, sur les conseils d'Harry, et sur son côté forcé, hein, il est inscrit à un site de rencontre, et bah, Harry le pousse pour qu'il essaye de choper quelqu'un, quoi,
Voilà, c'est exactement
pour
ça.
lui remonter le moral. Et bah, ça se passe pas forcément très bien.
Non, en fait, c'est encore sa dualité avec Spider-Man qui va rentrer en jeu et qui va lui jouer des tours. En fait, il va rencontrer une nana alors qu'il est habillé en Spider-Man, quoi. Et donc, les choses ne vont pas se passer comme il voudrait qu'elles se passent. Mais moi, ce que j'ai surtout aimé dans cet épisode, c'est enfin on voit vraiment deux potes, tu vois, Harry et
Ouais,
Peter.
ouais.
Et je trouvais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des scènes comme ça avec. Tu vois, ils semblaient pas vraiment potes, quoi. Et là, enfin, je retrouve vraiment comment dire, l'amitié qu'ils partageaient avant, quoi, il y a longtemps, quoi.
Bah, vu le changement pour Harry dans les deux premiers épisodes, enfin, en tout cas dans le 604, c'est clair que c'est plus vers une relation comme ça qu'on va se tourner maintenant, enfin j'espère.
Ouais. Ah oui.
Ça devrait donner quelque chose comme ça maintenant, au gré des scénaristes, hein.
Ce que je trouvais énorme, donc c'est ces panels où il y a Peter Parker avec l'ordinateur qui écoute les castings au fait des différentes nanas et tu le vois, tu sais, t'as le temps qui passe,
Ouais, non
t'as
mais.
Harry qui commence à s'endormir. Je crois qu'il y a ça deux fois dans l'épisode et franchement, c'est très drôle,
Mais je
quoi,
crois
ces
que la
passages.
première fois, ça dure sur plusieurs jours, en fait. Parce qu'on
Oui.
voit le soleil se coucher, revenir, enfin.
Non, puis t'as Michelle aussi, on sait qu'elle est là, elle est enfin dans l'appart, mais elle gueule tout le temps parce que ne serait-ce que pour sortir, tu sais, il est obligé de passer par sa partie au fait.
Ouais.
Parce qu'elle a coupé l'appartement en deux. Et donc c'est complètement ridicule quoi, et on l'entend gueuler dès qu'ils sortent, ou dès qu'ils disent un truc. Et enfin voilà, donc bon, quand même ça m'a fait sourire cet épisode, quoi,
Oui, moi
c'est
aussi, ça m'a
assez
fait
agréable.
sourire. C'est sûr qu'après les deux premières parties, super chiantes,
Voilà.
voilà. Moi, je trouve que c'est un petit Spider-Man, hein, ce mois-ci.
Oui, ben je te dis le mois prochain, retour de Black Cat, alors on verra.
Ah, ouais, on verra. On verra.
Voilà, c'est ce que je peux te dire.
Ok, bah on va passer maintenant à la grosse partie Avengers. Et
Ouais.
on va commencer avec le Dark Reign hors-série numéro 2, la deuxième partie de The List. Ce sont donc les quatre derniers épisodes de cette série de one-shot. Le premier dans la parution Panini, c'est le numéro 3, The List X-Men.
Ouais.
Scénario de Matt Fraction, dessin d'Alan Davis, ancrage de Mark Farmer. C'est pourri? En tout cas, moi, c'est mon avis, hein. C'est franchement.
Faut voir ce que ça donne après, quoi, parce que c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre à Utopia, un autre invité de marque.
Ouais, enfin, là, si on le dit pas, ça va être difficile d'en parler.
En l'occurrence, c'est Namor.
Ouais.
Voilà.
Norman veut tuer Namor puisqu'il s'est barré de son conseil là.
Bon,
Comment il appelle ça là? Les Dark Illuminati ou
oui.
je sais pas quoi?
Mais pour résumer les choses plus simplement, Norman veut buter tout le
La
monde. D'ailleurs,
cabale. La
oui,
cabale, voilà, c'est
la
ça.
cabale. Comme c'est le groupe où il y a Madonna aussi.
Voilà.
Et
Une référence pop que je ne connais pas.
Ah non, c'est pas une référence pop, c'est il y a une secte qui s'appelle la cabale et Madonna en ferait partie, ainsi que d'autres personnes, je crois.
D'accord, ah ouais, je ne m'y connaissais pas.
Voilà. Mais
Va rebondir là-dessus maintenant.
oui, voilà. Donc non, mais je disais avant ça que Norman veut tuer tout le monde dans l'univers Marvel, comme on a pu le voir ce mois-ci, encore une fois. Et la liste est plus longue que 8, 8, enfin il a plus de 8 cibles, quoi.
Ouais.
C'est vraiment tout le monde, quoi. Il en veut à tout le monde.
Donc bah pour tuer Namor, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'utiliser son ancienne femme, Mariana. Bah, qui est transformé en espèce de poisson carnivore.
Voilà,
Géant.
en méga gros poisson.
Comme on s'en doute, il n'y arrive pas. Hein.
Oui, enfin, c'est Norman qui n'y arrive pas. Et
oui,
Namor
oui.
Décapite complètement son ex, au fait. Et on voit la tête de son ex en poiscaille desséchée avec des yeux de merlan frit dans le bureau de Norman Osborn. Bon, comme ça, ça semble assez bizarre.
Non, mais de toute façon, ça me fait plus rire que l'épisode, donc c'est déjà bien.
Là.
Non, l'épisode est très mauvais. Franchement.
Oui, l'épisode n'a aucun intérêt si ce n'est que Namor se joint aux mutants et en fait tout le peuple de Namor fait cause commune avec les mutants. Donc où est-ce que ça va nous mener ça?
Bah, chose qu'on avait déjà un peu vue à la fin d'Utopia.
Oui, c'est vrai.
Donc rien de neuf sous le soleil?
Non, rien de neuf sous le soleil d'Utopia et je sais pas s'il y a beaucoup de soleil au-dessus d'Utopia. Je pense que si. Voilà. On terminera là-dessus. On va passer à...
Je crois que c'est la conclusion la plus moisie qu'on ait pu faire.
On passe à Daredevil.
Ouais, de liste Daredevil, donc qui était le numéro 2 hein, dans l'ordre de parution. Voilà.
Alors
scénario,
là,
Andy Diggle, dessin Billy Tan, ancrage Matt Benning. Alors là déjà, à ne surtout pas lire avant d'avoir lu le Daredevil qui sort en fin de mois.
Voilà, d'où le problème. C'est-à-dire qu'on voit là encore un Dark Reign The List qu'il faut attendre avant de lire, qu'il faut attendre avant de lire. Non, qu'il faut... Enfin voilà, faut attendre pour le lire.
On n'arrive plus à rien là.
Les batteries arrivent à plat, ça commence à clignoter.
On a fait une petite pause pipi entre deux et voilà ce qui se passe.
Voilà, c'est fini.
Voilà, vous savez tout. On va pas trop parler de l'histoire parce que si jamais vous ne l'avez pas lu, vous serez obligé de sauter la review, donc ce serait dommage. En tout cas, à savoir que cette histoire-là va avoir des répercussions monstrueuses dans les mois à venir.
Voilà. Donc c'est pas un épisode, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, quoi, comme on dit. C'est vraiment un épisode
List,
qui...
The List, en général, il y a quand même des répercussions. Je m'attendais à une série de one-shot qui ne sert à pas grand-chose, et finalement...
En fait, ça dépend. C'est vraiment, ça dépend des séries. Sur Daredevil, ouais. Sur Punisher, bah, ouais.
Ouais.
Sur Hulk, on va le voir, ouais.
De toute façon, on le savait déjà, puisqu'on a lu le spécial Hulk le mois dernier, fin de mois dernier. Et cet épisode-là s'intercale entre le 603 et le 604.
Ouais, effectivement. Mais bon, il y en a vraiment où The List ne sert pas à grand chose. Par exemple, je crois que le pire c'était quand même Wolverine The List.
Oui, bah X-Men n'est pas beaucoup mieux.
Ouais, oui, effectivement. Donc ouais. En tout cas, ce Daredevil, très intéressant, mais attendez avant de le lire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour le moment.
Bah, on a The List aussi, Avengers, mais bon, vu qu'il y a un peu de retard, Ronin n'est toujours pas capturé hein, dans les New Avengers, il est toujours là. Donc on va voir où ça va nous mener là aussi.
Il n'y a pas un épisode où il dit, ah bah tiens, t'es revenu?
Non, je crois pas.
Ah bon. Ouais, donc t'as raison. Moi, je sais plus.
Non, mais voilà, c'est le problème, c'est que pour moi, Panini a fait une énorme erreur, c'est d'avoir publié ça maintenant. Ils auraient dû publier le The List, le premier tome, le mois dernier, et celui-ci le mois prochain.
Ouais.
Il y a une énorme erreur de planning.
Oui, je sais pas. Enfin bon, je sais pas pourquoi, ni comment, ni
pourquoi de haine. Ils veulent débuter Siege le mois prochain, je crois.
Oui, c'est vrai. Siege débarque. Je crois en octobre.
En octobre, il n'y a pas le prologue qui sort fin septembre?
Ah, peut-être s'il y a un problème. Ouais. Mais d'accord, ok. Ouais,
je crois que c'est pour ça, mais pour moi c'est une grosse erreur. Enfin, bon. On passe au troisième de la liste, sans jeu de mots. Qui était, je crois, le numéro 6 dans l'ordre de parution. The List Hulk, scénario Greg Pak, dessin Ben Oliver. Donc là, c'est ce dont on parlait dans le dernier Hulk, donc référez-vous au Comic City numéro 36.
On va faire vite la review de Dark Reign The List.
Oui, oui, finalement, oui.
Non, mais enfin, je disais tout à l'heure que le truc important, c'est que Norman Osborn va interférer quand même pas mal sur la vie de Bruce Banner, finalement.
Voilà, il envoie Miss Marvel essayer de tuer Scar.
Oui.
Et finalement, tout ça n'est qu'un gros plan.
Oui, visant à faire quelque chose qu'on va pas révéler.
Bruce Banner, puisqu'il veut éliminer Bruce Banner.
Oui, donc vous pouvez deviner comment peut-il y parvenir. Et la solution est toute simple, donc on vous laisse réfléchir.
Quoique, comme je dis, si vous avez lu le Incredible Hulk, le spécial, la sortie le mois dernier, fin de mois dernier, vous avez déjà la réponse, puisque c'est mentionné dans les pages de l'épisode.
Ouais, mais moi j'avais oublié que Norman Osborn était dans le coup, en fait.
Voilà. On passe au dernier, qui est un gros morceau, d'ailleurs,
c'est
un double épisode. The List Amazing Spider-Man, donc c'était le huitième et dernier one-shot de la série, le scénario est de Dan Slott, les dessins sont d'Adam Kubert et l'ancrage est de Mark Morales. Et donc là, Peter Parker et les gens du frontline s'interrogent sur comment ils vont faire tomber Norman. Comment ils peuvent l'exposer aux yeux du grand public.
Ouais, la solution est un peu simple quand même, un peu simplette.
Ouais.
C'est, C'est-à-dire que, en gros, Peter Parker va essayer de d'aller prendre des photos des fameuses expérimentations que Norman fait sur Frick, sur le projet American Sun, etc. Enfin, toutes les espèces d'expérimentations qu'on a pu voir dans Amazing Spider-Man ces derniers mois.
Et il va aller piquer des fichiers directement dans l'Avengers Tower. Ce qui est très fort, c'est quand même, le troisième ou quatrième à pénétrer dans l'Avengers Tower. Bon, il avait déjà réussi, hein, puisqu'on l'avait vu dans American Sun, mais...
Non, ce qui est très fort, c'est quand même dans cette mini-série, donc The List, enfin dans cette série de one-shot, Norman Osborn fait une liste, et tous les mecs qui sont sur la liste arrivent comme des aimants dans la Avengers Towers. Donc c'est quand même extraordinaire.
Au final, on a Ronin qui est rentré, on a Nick Fury dans le Secret Warriors, on a Namor qui a balancé tête de poisson à travers une vitre et qui a pénétré comme ça.
Je pense que la meilleure entrée, c'était Spider-Man.
C'est énorme. Ils sont tous rentrés. Il y en a 4 sur 8 qui sont rentrés dedans.
Oui.
Elle est pas si inviolable que ça, quand même, là, tout le monde.
Ouais, voilà. Et donc, là, Spider-Man rentre comme dans un moulin. Bon, en même temps, ce qui m'étonne, voilà, c'est qu'il a pris tellement de précautions pour rentrer dans American Sun, et là...
Mais il avait déjà des trucs. Il savait déjà comment faire.
Oui, enfin, bon, d'accord, mais dans American Sun, il était quand même... Il avait oui, quand
il
même
était un... déguisé en oui, Venom, voilà. Et tout, donc...
etc. Et là, vraiment, il rentre comme dans un moulin.
C'est parce qu'il a fait ça de nuit. Ça marche mieux de nuit.
Bon, mais c'est les journées.
Avec un costume noir, il s'est glissé. Et après, il l'a enlevé. On l'a pas vu, c'est entre deux cases.
C'est les promos chez Norman Osborn. C'est les journées portes ouvertes et tout le monde peut venir et se servir.
Bon, comme tout le monde s'en doute, hein, il réussit à piquer les fichiers. En tout cas, la confrontation finale entre Norman et Peter vaut son pesant de cacahuètes, je trouve.
Oui. Non, sans besoin de cacahuètes, mais ce qui est énervant, c'est
super bien écrit.
Code. Oui, mais ce qui est énervant, c'est quand même le cheat code des scénaristes qui fait que jamais Norman Osborn ne se dira, ah, bah tiens, c'est bizarre, petit Peter Parker, c'est peut-être Spider-Man.
Surtout qu'en plus, il lui fait le coup de, non, je tomberai pas deux fois dans le même piège. Quitte à lui faire le même piège au départ, c'était Spider-Man. Enfin bon.
Exactement.
Mais ça, mais moi, en fait, là, ça m'a même fait sourire. Je me suis dit, bon, c'est tellement gros qu'à force, voilà, ça en est drôle, quoi.
Ouais, effectivement.
Je me demande si c'est pas volontaire de la part de Dan Slott, d'ailleurs.
Si, peut-être, mais en tout cas, voilà quoi, c'est quand même un gros cheat code sur des scénaristes de Spider-Man à propos d'identité secrète, quoi, qui me reste en travers de la gorge et voilà. Mais bon, mais l'épisode est sympa.
À noter qu'il y avait aussi en VO autre chose derrière écrit par Bendis, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je peux pas en parler.
D'accord, bon, on l'aura peut-être, qui sait, dans un Marvel Heroes ou Marvel Icons.
Possible ou peut-être en fin de Spider-Man, je sais pas.
Ouais. Adam Kubert, juste pour dire que je l'ai trouvé un peu pas très en forme en fait sur cet épisode.
Bon, ça va pas gêner.
Ouais, bon, enfin je l'ai connu meilleur, enfin je trouvais meilleur que ça. Quoi.
Après, faut voir si c'est pas Marc Morales à l'ancrage hein, qui
peut-être peut jouer ouais. Aussi. Ouais, peut-être. Je sais pas.
Par contre, là où je suis un peu moins d'accord, c'est est-ce que ça nécessitait réellement un double épisode? Je sais pas.
Bon, en tout cas, il est sympathique. C'est peut-être l'un des plus sympas de la série, quand même.
Surtout pour cette scène finale entre Parker et Osborn, qui est, je trouve, monstrueuse.
Et qui était quand même le dernier des one-shot aussi.
Ouais, c'était le dernier. Ouais. De toute façon, c'était prévu pour être la fin. En tout cas, ouais. Bon, bah, c'est ne serait-ce que pour Daredevil, qui est à lire absolument parce que ça aura des répercussions. Et puis, le Amazing Spider-Man, ça vaut l'achat.
Oui, mais à lire en fin de mois le Daredevil.
Oui. Oui, à lire surtout en fin de mois. Ne lisez pas ça avant d'avoir lu le volume sur Daredevil. Si vous suivez la série, vous allez vous spoiler, mais d'une force. Vous allez maudire Panini à tout jamais. Ouais. Bien, bah on va passer à la suite maintenant. C'est toujours le bloc Avengers, et c'est le Marvel Heroes numéro 34. Le premier épisode, c'est le retour de Thor, le numéro 604. Scénario de Kieron Gillen, le dessin est de Billy Tan, et l'ancrage est de Bat.
De Bat?
Oui, Bat. B-A-2-T. Alors, c'est l'arrivée sur le titre de Kieron Gillen qui, je trouve, s'en sort vraiment pas mal pour un premier épisode.
Oui, bah il reprend directement là où Straczynski avait laissé les choses, au fait.
Ouais, parce que bon, passer après Straczynski, quand même, c'est pas non plus hyper facile.
Oui. Alors, bon, c'est pas mal, mais voilà, c'est on sent que ça va être quand même un peu moins drôle, peut-être, tu vois, il y a un petit peu moins d'humour. C'est-à-dire, il tente une scène un petit peu humoristique à un moment avec, comment s'appelle-t-il déjà, Volstagg, non?
Ouais, Volstagg, ouais.
À propos d'omelette, etc., là, quand il est en train de servir dans un bar, mais on rigole quand même beaucoup moins, quoi, tu vois, c'est plus discret, tu vois, l'humour est un peu moins présent, on va dire.
Bah, déjà, sur cet épisode est beaucoup plus centré sur les Asgardiens que sur Thor.
Oui, c'est vrai aussi, puisque Thor... n'apparaît quasiment pas.
Bah on voit bah sur la dernière page et puis sinon on voit Donald Blake quoi, c'est tout.
Oui, voilà.
Là où Kieron Gillen est malin, c'est que il fait ce que Straczynski refusait de faire. Il réintègre peu à peu Thor au reste du Marvel Universe, puisqu'on voit Don Blake discuter avec Reed Richards.
Oui, d'ailleurs, il lui fait, tiens, salut, ça fait longtemps que je t'ai pas vu au téléphone.
Ouais. Donc il fait ce que Marvel voulait que Straczynski fasse et qu'il refusait de faire.
Voilà,
Donc
piétiné
c'est
là.
plutôt malin de sa part, je trouve. Et en plus, bon, je trouve qu'il tient bien les persos, ça va, il trahit pas ce qu'a fait Straczynski non plus.
Non,
Donc
du tout. Alors,
c'est vraiment pas mal, je trouve.
moi, il y a juste un truc qui m'a choqué, qui m'a un peu déçu, c'est la mort de tu sais qui.
Ce personnage est-il mort ou seulement fait prisonnier? Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas, ça reste à voir. On verra dans les prochains épisodes. Là, on se concentre vraiment sur le plot avec Docteur Doom en Latverie. Et ces Asgardiens qui sont
Qui se...
reconfigurés, on va dire, par Doom.
Oui, qui se sont rendu compte de la supercherie,
Ouais.
que Doom, au fait, voulait percer le secret de la pseudo-immortalité, puisqu'ils sont pas vraiment immortels, au fait, les
Bah,
Asgardiens.
plus maintenant.
Oui.
Voilà.
Mais enfin bon, ils se sont rendu compte de la supercherie de Loki et de Doom. Alors par contre, ce qui m'a étonné, c'est la manière avec laquelle Loki arrive encore à les embobiner, quoi.
Ah, comment il fait son show, quoi.
Oh oui,
C'est
c'est incroyable.
énorme.
C'est trop. C'est
Ah,
trop,
moi j'ai
ouais.
trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial la façon dont il est. Oui, j'accepte ma punition, mais comme je suis un fils d'Odin, voilà, je peux pas. On est obligé de me faire un procès, tout ça. Et
Ouais.
Baldur s'en rend compte, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et je trouve ça gigantesque. Non, c'est pareil, Loki, il le tient bien.
Ouais. Non mais voilà, donc c'est vraiment la revanche des Asgardiens sur Doom.
Exit par contre le côté transgenre de Loki façon Quappel. Et vraiment, Loki est retourné à son côté mâle. Ça se
Oui.
sentait déjà depuis plusieurs numéros, mais alors là, c'est clair et net, il est homme de nouveau.
Ah oui, totalement, ouais.
Ce qui est
Donc
logique de toute façon, puisque Sif a récupéré son corps.
à voir si Kieron Gillen continue donc à utiliser ce que JMS a laissé, ou bien alors est-ce qu'il va conclure ça dans la prochaine partie de l'arc, et
Ah,
puis
je sais
passer
pas.
totalement à autre chose ensuite, on va voir.
On verra bien. En tout cas, on voit juste une main d'un ennemi de Thor. Alors, ceux qui lisaient Thor ou l'ont pas mal lu
Ah
reconnaîtront
oui?
peut-être le bras.
Mais quand?
Au tout début, le bras de justement par cet Asgardien qu'on ne sait pas si mort ou pas.
D'accord, ok.
Mais
Ben, j'ai pas remarqué, mais je regarderai.
ouais, voir cet ennemi au service de Doom, voilà, ça peut faire des bonnes choses. Moi, franchement, pour le moment, je suis plutôt emballé. C'est vrai que le départ de JMS était dur. On se dit, oh là là, surtout un scénariste qui n'a pas fait grand-chose. On se dit, oh là là, comment il va reprendre ça? Et pour un premier numéro, c'est plutôt pas mal foutu. Moi,
Ouais, non,
je...
ça tient bien ses promesses, c'est dans la continuité, c'est bien, c'est mieux que certains qui balayent tout et qui reprennent totalement à leur sauce. Là, au
Comment
moins...
tu parles de Joe Quesada? Oh là là.
Ah non, non, plus parler en général, moi, pas du tout, monsieur. Je parlais vraiment en général, comme ça, sans penser à qui que ce soit. Ouais.
C'est moi qui appuie.
Non, je pensais juste à Mephisto.
Oui, bah oui, Jockey ça
Oui, non, non, mais je plaisante.
Ok, bah en tout cas, bon premier épisode et hâte de lire la suite là encore. Rien de plus à ajouter?
Ah non, non,
Très bien,
passons.
en passant donc au Mighty Avengers numéro 32, le scénario de Dan Slott, l'ancrage est de Coy Pam. Oh, pourquoi je me trompe deux fois de suite? Le dessin est de Coy Pam, l'ancrage est de Craig Young. Je vais oublier le dessinateur maintenant, c'est nouveau.
Bah oui, là, j'ai pas tellement aimé les dessins sur celui-là d'ailleurs.
Ah bah Coy Pam quoi.
Ouais, mais là encore plus Coy Pai en vacances, quoi, tu vois, Coy Pai fait des
Rappelle-toi de
petits.
Coy Pam pendant Secret Invasion, c'était horrible. C'était lui qui nous avait pondu l'immonde épisode sur Elektra.
Ah oui, d'accord.
Qui était une horreur pour les yeux.
Oui, non, mais là, voilà, il fait une espèce de service minimum sur les visages, surtout des personnages. En fait, ces trois traits, on a l'impression que c'est des ballons, tu sais, sur lesquels t'as dessiné au crayon les yeux, le nez, la bouche, c'est tout.
C'est violent là quand même.
Ah bah, écoute, tu regardes les visages, par moment, c'est vraiment ça, hein. Il n'y a aucun détail. Mais
Ouais.
sinon, le scénario, quand même.
Bah ça commence avec une scène où Quicksilver est remercié pour service rendu à la nation inhumaine et à la nation Kree. Il retrouve un petit peu son statut qu'il avait à l'époque avec les Inhumains. Et ça, ce sera les services rendus à lire dans Realm of Kings Inhumans numéro 2, à sortir un jour en France, puisqu'il y a à peu près, j'ai vérifié, un peu plus de 6 mois de décalage entre les parutions du Marvel Universe et les parutions
Au fait, ils préviennent
Avengers.
là dans le Panini, enfin dans le Marvel Heroes, que ce sera En 2011, hein, de toute façon.
Mais non, mais il y a à peu près 6 mois de décalage. Donc, puisque bon, j'ai regardé simplement l'ours, j'ai tapé au hasard dans un des épisodes du Marvel Universe à venir en fin de mois. C'était le Dark Hawk 2, je crois. Et il datait de juin 2009, celui-ci date de février 2010. Bon, sachant que bien sûr, il y a toujours ces 2 mois d'avance, mais ça fait un peu plus de 6 mois de décalage. Je crois que je n'ai pas été très clair, ça laisse un vieux blanc.
Non, mais j'attendais que tu embringues sur la suite du scénario.
Il y a beaucoup de rappels à The List, justement, Amazing Spider-Man dans cet épisode.
Ouais,
donc au moins, ça fait plaisir de voir que c'est pas pour rien.
Ouais. Enfin, c'est... je pense qu'on aurait pu avoir cet épisode sans The List Amazing Spider-Man, quoi, mais bon.
Cette vidéo, en tout cas, fait du mal.
Oui, voilà. En tout cas, ça a des répercussions sur Norman Osborn. Et
moi, je suis content. Moi, je suis vraiment content de voir que ces épisodes, finalement, n'ont pas servi complètement à rien, qu'on en fait mention ailleurs.
Oui.
Voilà, c'est pas... Enfin, rien que pour ça, déjà, j'ai trouvé ça cool. De toute façon, j'ai trouvé tout cet épisode vraiment bon, personnellement.
Mais en gros, la crédibilité de Norman Osborn a été sacrément entamée, quoi. Mm-hmm. Et donc, les Mighty Avengers sont appelés, au fait, sur une intervention qui concerne l'homme absorbant.
Qui se retrouve au projet Pegasus.
Voilà. Et manque de peau, dans le projet Pegasus, il y a, on va le dire.
Non.
Non, on va pas le dire.
Non, c'est vraiment la fin, donc on va pas le spoiler. Mais il y a quelque chose qui va le rendre très très fort, disons.
Oui, voilà, le super banco.
Beaucoup trop fort, même, peut-être. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit Norman complètement péter les plombs.
Oui.
De par le gain du public qu'ont eu ces Mighty Avengers, puisqu'ils interviennent pas tous sur Terre et vraiment le public les adore, alors que c'est lui et ses Dark Avengers sont pas autant aimés. En plus, il est lâché par tout le monde, il fait une espèce de réunion de crise de cette cabale, personne ne se pointe. Les gens, Namor et Mafrost l'ont quitté, bien sûr. The Hood, il essaye de l'appeler, lui raccroche au nez en lui disant je suis occupé à autre chose.
Ouais, un peu comme moi, quelquefois quand tu m'appelles sur Skype.
Lucky se pointe et le manipule totalement. Moi, ce que j'ai trouvé quand même très très gros dans ce numéro-là, c'est que sous la plume de Dan Slott, les choses avancent beaucoup plus pour le Dark Reign qu'en 8 mois avec Bendis. Il y a quand même pour moi un gros souci.
Oui, bah ouais. Bah, comme quoi, Bendis, c'est vraiment la décompression. Et là, on voit Dan Slott, c'est vrai que ses arcs, même les plus longs, ils font quoi, 3-4 parties au maximum.
Ouais, enfin, le Unspoken avait duré longtemps, puisqu'il y avait eu plusieurs choses en même temps. Donc,
Oui, enfin bon, il y avait énormément de choses qui s'y passaient, quoi. Mmh. C'est pas Luke Cage qui a une écharde dans le doigt et qui va chez l'infirmière de nuit, par exemple.
On en reparlera tout à l'heure.
Ouais. je caricature à peine.
Mais ben, franchement, voilà, en plus il y a toujours beaucoup d'humour. Enfin, il se passe vraiment beaucoup de choses dans les épisodes de Dan Slott. Le Dark Reign en lui-même avance, puisqu'on voit que Norman est lâché de tous les côtés, qu'il est à deux doigts d'exploser. Loki continue ses manipulations. Enfin, je sais pas. Moi, bon, j'ai l'impression d'avoir vachement avancé dans cet épisode, que beaucoup plus avancé en tout cas que les 3 derniers mois de toute l'écriture de Bendis sur les séries Avengers.
Oui, non, c'est clair et net. Là, peut-être il se passe énormément de choses dans un épisode de Dan Slott sur les Mighty Avengers. Et non, bah, comme tu dis, ouais, un épisode toujours très fun. Et qu'est-ce qu'on peut dire?
En tout cas, pour moi, c'est le meilleur épisode du mag. Ça, c'est clair et net.
Attends, je regarde ce qu'il y a d'autre. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Donc, c'est un arc...
Excuse-moi, vas-y.
Mais non, je disais, c'est un arc qui était censé être... Parce qu'en fait, sur la couverture Panini, il t'annonce Puissant Vengeur versus Vengeur Noir. Au fait, je sais même pas si on
c'est
va avoir...
C'est un arc en deux, voilà. En fait. C'est un arc en deux, puisque c'est un arc qui s'appelle Mighty Dark.
En fait, ils vont être face à un ennemi commun, comme l'autre fois, quoi, avec le Unspoken, j'ai l'impression.
Bah, c'est un peu ça, ouais. Mais je pense que, bah, avec la réflexion que fait Bullseye vers la fin, qui veut se faire Cassilang, et quand on par se la faire, j'entends la tuer,
oui,
je pense que ça va déraper.
Oui, moi aussi, de toute façon. Mais d'ailleurs, une fin un peu surprenante, hein. Un petit peu une fin, tu vois, je pensais qu'il allait y avoir encore autre chose après, mais ça se termine vraiment sur cette réplique, quoi.
Mais c'est la fin à la Dan Slott, de toute façon, en général. Mmh. Il fait toujours des cliffhangers assez bizarres, qui te donnent presque pas plus envie que ça d'aller voir la suite. C'est vraiment une façon de faire assez particulière.
Oui, c'est vraiment une coupure brute, quoi.
Bah, en tout cas, faut dire que ce qu'il y a d'énorme aussi, c'est que il a un cast où il peut se permettre d'être humoristique. Il a Hercule Amadeus Cho, il a US Agent, qui passe son temps à faire des vannes, notamment, ouais, de toute façon, ici, c'est pas une démocratie. Je sais pas, pour
Oui,
quelqu'un qui est
bien sûr.
censé représenter le gouvernement américain, c'est quand même limite. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Je pense que ça vient aussi énormément du cast. Et s'il n'a pas une équipe comme ça, je suis pas sûr que sur quelque chose de plus sérieux, que ce soit mieux en tout cas.
Oui, il y a énormément de trucs avec Amadeus Cho, avec Hercule, plein de scènes très drôles. Il y a même Quicksilver qui dit, tu sais, quand il est dans le manoir infini, qu'il a pratiquement un continent à traverser pour aller dans la pièce où ils sont, parce que le truc est super grand, quoi.
Bah oui, de toute façon, c'est infini.
Oui, ben voilà, non mais c'est pour ça, non, il y a vraiment des trucs, c'est marrant, quoi, c'est bien pensé. Toujours plein de petites notes d'humour à chaque recoin de page, donc c'est vraiment une lecture très plaisante.
Autant Mighty n'était pas une série que je suivais avidement, autant maintenant, ça me désole que la série s'arrête à la fin de Siege.
Bah ouais, ça fait partie de ces séries comme Avengers Initiative qui sont pas mal, mais qui malheureusement vont disparaître.
Avengers Initiative, on y revient tout à l'heure. On va passer maintenant au Hulk numéro 17, scénario de Jeff Loeb, dessin de Ian Churchill, ancrage de Mark Farmer. Bon, bah, c'est la conclusion à cet arc, qui pour moi s'arrêtait à l'épisode dernier, hein. Je pensais que c'était la fin,
Oui,
mais...
mais qui aurait pu aisément s'arrêter à l'épisode dernier, parce que là, autant les parties précédentes étaient plaisantes à lire, autant là, je me suis fait chier, mais prodigieusement.
Ouais, c'est totalement bordélique, je trouve.
Ouais, on n'y comprend rien, on ne sait pas qui fait quoi et quel est le but de qui, et enfin, tu vois ce que je veux dire? Quel est le but de chacun des protagonistes? On ne comprend rien. On sait même plus ce qu'il veut, Hulk, à la fin. Il a une équipe, on sait même pas pourquoi tellement il les a rassemblés. Et en plus, il leur donne tous un truc à la fin. Quel est son but? Pourquoi il fait ça? Même moi qui sais qui est Red Hulk, je comprends pas pourquoi il fait tout ça.
Ah bah si, enfin, c'est clairement expliqué par Elektra qu'il faut absolument qu'il ait des alliés pour...
Oui, enfin bon, oui,
Voilà, faut
d'accord,
pas
oui.
qu'il se mette des gens à dos parce qu'il a déjà assez
Oui, non,
d'ennemis comme ça.
mais d'accord. Bon, enfin, oui, bon, enfin, tout ça pour ça, quoi. Enfin, voilà.
Mais en fait, je pense que cet épisode mérite deux lectures. Bon, par manque de temps, j'ai pas pu le faire. Mais il
Ouais.
faut le lire une première fois en ne lisant que les bulles de dialogue, rien d'autre. Et une deuxième fois en ne lisant que les passages de narration. Parce que
Ouais.
c'est tellement... Le dialogue de narration n'a tellement rien à voir avec ce qui se passe dans les bulles que ça
Ah,
ajoute à la
totalement.
confusion.
Oui,
Donc je
ça ajoute
pense
à la
qu'il faut
confusion.
vraiment le lire en deux fois. Alors soit vous commencez par la narration, soit vous commencez par les bulles, ce que vous voulez. Mais je pense que c'est la meilleure chose pour bien apprécier l'épisode. Parce qu'il y a vraiment deux thèmes vraiment distincts dans cet épisode.
Dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que la narration en fait du Red Hulk, puisque c'est lui qui narre l'épisode, vous donnera peut-être des indices pour découvrir sa véritable identité, encore une fois.
Encore un peu
Mais
plus.
c'est quand même compliqué, enfin voilà, quoi,
Ouais, il y a...
sans plus d'indices que ça, quoi.
Il y a un passage quand même que j'ai trouvé un petit peu abusé, c'est le côté Hulk King Kong quoi, qui emmène
Oui.
Red She-Hulk en haut de
Ouais,
en
ouais,
haut
ouais.
d'Empire State
Non,
Building et
enfin,
qui
moi ce
s'apprête
qui
à la
m'a.
jeter dans le vide. Enfin, c'est tellement King Kong que c'est abusé, je trouve.
Ouais, bon. Enfin, ce qui est marrant, c'est le réveil de Ben Grimm, du coup. Ça te rappelle tes réveils à toi, Steve.
J'espère simplement que ce sera pas l'annonce d'une future baston
Ah
pour se
non,
venger.
non. Je pense pas pour ça, moi.
Avec le début de la série, je me méfie avec Jeff là-bas.
Ouais, non, je pense pas.
Donc à
Je
suivre,
pense pas
c'est
qu'il ira jusque-là.
la suite, c'est le prologue à Fall of the Hulk, c'est le prochain événement qui concerne toutes les séries Hulk. On verra ce
Ah
que ça
bah
va
le
donner.
prochain épisode de mémoire, c'est un épisode centré sur Samson et
C'est un prologue en fait.
oui, mais qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment pas mal. Je l'avais lu en VO et voilà.
Bah on verra le mois prochain.
Voilà, exactement.
On passe au dernier épisode du mag. C'est le Initiative numéro 30, scénario de Christos Engage, dessin de Jorge Molina et ancrage de Victor Olazabal et Andrew Hennessy. Et donc là maintenant, on a une origine de trauma, la véritable origine de trauma.
Voilà.
Et on a enfin, on sait enfin, bah, pour ceux qui n'avaient pas compris avec les énormes indices que j'avais laissé planer les derniers mois, c'est donc Nightmare qui prend le contrôle de trauma.
Oui, ça fait
Cauchemar en
deux
français.
fois, enfin là c'est la troisième, donc enfin on révèle, oui c'est Cauchemar en français, donc Nightmare en anglais, qui est au fait derrière enfin oui qui prend possession du corps de Trauma, mais au fait qui en a pris la possession depuis longtemps finalement.
Oui, ben oui, puisqu'on apprend l'origine de trauma et
Bah juste, oui voilà, on
moi,
va juste
ça m'a
dire.
surpris. Je m'attendais pas à ça.
Oui, moi non plus. Non, non, mais encore une fois. Christos Engage, encore une fois, est capable de faire énormément d'intrigues. Il se passe quand même pas mal de choses. Bon, moins que d'habitude quand même, parce
Ah,
que
moi,
s'il y a
ouais, il se
beaucoup
passe
de
moins de
bastons.
choses, mais ouais, je trouve que c'est y a un peu trop de trucs en même temps, quoi. C'est un peu too much. On sait plus qui est avec qui, ça pète dans tous les sens. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à reconnaître dans quel camp est l'un et l'autre et Moi,
Et en
ça m'a
fait, c'est
perturbé,
surtout
quoi.
centré sur Nightmare et puis sur Penance.
Ouais. Qui retrouve
Voilà.
sa mémoire. Ça
Qui
y est.
retrouve sa mémoire. Et alors moi, j'avais complètement oublié que Vance et les anciens New Warriors ne savaient toujours pas que Penance était Speedball, en fait.
Ben oui, moi non plus. En fait, le seul qui le sait des anciens New Warriors, c'est Nova, parce qu'il l'avait rencontré à l'époque de tout début de sa série.
Ouais, et
Mais
donc
comme Nova
Nova ne
n'est pas
les a
là,
pas vus pour
ben
leur
non,
dire, quoi.
ben voilà. Et comme Nova n'est pas là, et c'est vrai que moi aussi, sur le moment, je me suis dit, mais ils savent pas. Ah ben oui, c'est vrai. Donc,
Oui, non, mais je pensais que c'était rendu public après, après Civil War que Baldwin était devenu Penance, mais en fait, non.
ben non, justement, puisqu'il faisait partie de Thunderbolt, c'était de manière à le cacher. C'est pour ça
Exactement,
qu'il avait
puis en
changé
plus,
d'identité.
j'avais oublié qu'il y avait eu cette espèce d'attentat d'un des parents des élèves de Stanford qui lui avait tiré dessus, je crois. Et du coup, il est même passé, enfin, il se fait passer pour mort, quoi, je pense, de toute façon, aux yeux du grand public.
Bon, je sais pas, l'épisode est sympa pour deux, trois petites choses qui s'y passent dedans, mais dans l'ensemble, c'est une conclusion un peu bordélique quand même.
Oui, et puis il y a beaucoup d'allusions à ce qui se passe dans Docteur Voodoo qu'on n'aura pas forcément en français.
Je pense pas du tout même.
Donc voilà. Donc
Vu que la série s'est arrêtée au bout de 5 ou 6 numéros, je ne sais pas.
d'accord. Bon, voilà.
Ça n'a pas pris.
Ouais.
Voilà, et pourtant c'était pas Jeff Parker.
Oui, donc bah oui, bah, un épisode un petit peu comme souvent quand il y a de la baston, c'est un petit peu en dessous d'habitude.
Il est très bon pour les intrigues, un peu moins pour les grosses scènes de baston.
Voilà.
Puis les dessins n'aident pas non plus à se repérer bien dans ce qui se passe.
Ah non, ça c'est certain.
C'est un peu fouillis, quoi. Voilà, bon, ça reste quand même un mag plutôt sympathique hein, dans l'ensemble.
Ah oui, non, plutôt bien. Voilà. Bon.
Pas grand-chose de plus à rajouter, hein.
Non, le meilleur, effectivement, Mighty Avengers et Thor aussi qui démarre très fort.
Ok, bon, on va passer maintenant au Dark Reign numéro 11. Premier épisode, c'est le Dark Avengers, scénario Brian Bendis, dessin de Mike Deodato. Alors, ça commence sur une espèce de cas, ça m'a vraiment fait penser à des séries de flics type Law and Order, etc., où on voit le crime.
Alors moi, ça m'a fait penser plus à du X-Files. Tu sais, les deux nanas qui arrivent
Oui,
dans une ville toute bizarre.
ça revient au même, enfin ouais, sauf que là, c'est plus,
Oui.
c'est vrai que comme c'est surnaturel, il y a
C'est
ce côté extra.
supernatural, t'allais
Ouais,
dire.
voilà, à l'américaine. Mais je sais pas, moi ça m'a tout de suite pensé à ça, et c'est un début super intéressant, c'est pas un truc qu'on voit très souvent dans les séries Avengers.
Oui, mais en fait, on ne sait pas du tout pourquoi ça démarre comme ça.
Et moi
Ça
franchement,
rappelle un
rien
petit
que
peu des...
ça, ça m'a quête, ça m'a, mais ça m'a accroché tout de suite dans l'épisode.
Oui, ça rappelle un petit peu les comics des années 90 où il y avait souvent des épisodes qui commençaient sur un truc qui n'avait rien à voir avec l'intrigue et les super-héros de la série. Et généralement ensuite ils se rendaient au milieu de l'épisode dans une espèce de ville où il s'était passé un truc, etc. Et voilà, moi ça m'a rappelé un petit peu un truc, voilà, une narration un petit peu old school. Il y avait pas mal d'histoires comme ça dans les années 80-90.
Ouais. Puis bon, après, le reste de l'épisode est pas mauvais non plus, quoi, je trouve. Parce qu'on
Bah.
a.
Alors, il y a quand même un truc qui me fait peur, c'est-à-dire, est-ce que toi, t'aurais compris comme moi que les personnages qu'on voit à la fin sont en partie responsables du Dark Reign?
Non. Non, non.
D'accord. Tu penses qu'ils ont rien à voir avec le fait que Norman Osborn soit au pouvoir, quoi?
Non, je pense pas. Enfin, j'en sais, en fait, je me suis pas posé la question. Non,
J'espère pas, hein.
j'ai trouvé ce final super saisissant. J'attends de voir ce que Bendis va nous sortir de son chapeau.
Oui, bah j'espère que ce sera pas juste histoire de faire une baston, quoi, mais non, mais je sais pas, en fait, je me demande si voilà, si ça expliquerait pas, enfin si ça ne, comment dire, ne rendrait pas plus réaliste entre guillemets les raisons de pourquoi Osborn est au pouvoir.
Moi, je pense que c'est le. Alors, j'ai évité de trop en dire pour pas trop vous spoiler, mais je pense que c'est le conseil qu'on a pu voir dans X-Infernus.
Ah d'accord, donc j'ai pas lu la mini-série en plus.
Ah, d'accord. Voilà. Bon, sinon, il essaye de mettre Venom de côté en prétextant un problème de bons médicaments, enfin de mauvais médicaments justement plutôt. On a un Venom un peu flippette.
Ah, écoute, je sais pas, mais moi j'ai trouvé vraiment vraiment superbes les dessins de Deodato. Alors bon, d'habitude il est pas moins bon, mais là franchement, aussi bien les visages que je sais pas. Enfin franchement, j'ai vraiment trouvé en forme sur cet épisode.
Ah oui, non, parce, bah, moi comme toujours je trouve, mais voilà,
Ben
enfin
là encore
j'aime
plus
beaucoup.
quoi. Je sais pas. Mais il y a un truc par contre que j'ai pas compris du tout. Sentry, dans le dernier épisode, il me semblait qu'il se faisait tuer, ou je sais pas, enfin il se prenait un truc dans la face.
Oh là là là, je me rappelle plus trop des derniers épisodes.
Je sais plus si c'était Norman ou quelqu'un d'autre qui lui tirait en pleine face. On avait l'impression qu'il s'agissait d'un robot ou je sais pas quoi. C'était assez bizarre. Et il y avait, tu sais, il y avait aussi Norman Osborn qui était enfermé dans une pièce. On savait pas ce qu'il faisait, etc.
Mais là, il donne un pré... bah, justement, on nous fait un rappel comme quoi il est sorti de cette pièce, que Victoria n'arrivait pas à le joindre au début. Il arrive comme si de rien n'était, et puis il a des absences, il a des moments d'absence d'ailleurs. Je sais pas
Ouais,
si t'as remarqué tout au long de
enfin,
l'épisode.
je pense que c'était dans le dernier où Sentry prenait un truc dans la face et.
Ah, ça, je me rappelle pas. Le coup de Norman Osborn, je m'en rappelle, mais le coup de Sentry, je m'en rappelle plus.
Et là, il réapparaît brusquement, comme si de rien n'était. Donc, je comprends pas trop quoi. Bon, on verra. On verra si on arrive à combler les vides par la suite.
Il y a aussi bah, Miss Marvel Moonstone qui cherche à allonger sa liste de personnes avec qui elle a couché, parce qu'il y a une énorme tension sexuelle entre elle et Bullseye.
Oui, et puis pas que dans cette série ce mois-ci. Alors, je sais plus où il y en avait encore entre elle et. Bah, c'était peut-être dans Mighty Avengers encore.
Oui, c'est possible.
Vous voyez qu'entre Bullseye et elle, c'était peut-être un amour qui naissait. Ça m'a étonné d'ailleurs, puisque au début, j'avais pas l'impression du tout qu'elle était attirée par Bullseye.
Bah, elle avait Captain Marvel, mais comme il s'est barré.
Ah oui, c'est vrai.
Elle avait fait Daken aussi. Pour ça, je pense qu'elle essaie de se faire tous les Dark Avengers.
Alors, je
C'est-à-dire
sais pas si c'est la
Paris avec Norman
couverture.
Osborn.
Si c'est la bonne couverture qui est sur le magazine Panini, parce que sur la couverture là qu'il y a sur le
Oui, Captain
magazine, il y a.
Marvel est dedans, oui, je sais.
Oui, d'accord.
Oui. C'est la même couverture, la couverture américaine. Captain Marvel est dedans alors qu'on ne le voit pas. Et d'ailleurs, c'est clairement dit dans cet épisode qu'il s'est enfui. Hein.
D'accord.
On ne sait pas où, mais il s'est enfui. Et ça les inquiète pas plus que ça, ils vont pas à sa recherche.
Non, oui, c'est assez bizarre quand même.
Moi, je pense personnellement que Bendis s'est un petit peu surmené. Qu'il en fait un peu trop entre New Avengers, Dark Avengers, qu'il faut qu'il chapeaute tout le Dark Reign, etc. Je pense qu'il sait plus trop donner de la tête et qu'il commence à se perdre peu à peu entre toutes ces différentes intrigues.
Bah, on voit que ça s'essouffle quand même un peu, hein, faut dire.
Un petit peu, ouais. Même si l'épisode là est très bon, voilà. Au niveau du Dark Reign, on n'avance pas beaucoup. Alors, à moins que cette scène finale offre de nouvelles perspectives, voilà. On passe à l'épisode suivant, peut-être? Le scénario est... pardon, déjà je vais annoncer ce que c'est, ça commencera mieux. C'est le Secret Warriors numéro 9, ça peut aider. Et le scénario donc est de Jonathan Hickman, les dessins et l'ancrage sont d'Alexandro Vitti. Bah, là tu vois, c'est un épisode que j'ai trouvé un petit peu en dessous de Secret Warriors habituel.
Ouais, bah de toute façon c'est la suite directe de ce qu'on a eu l'autre fois, donc les choses n'avancent pas tellement.
Alors, il y a des bonnes choses, hein, notamment on a toute explication du pouvoir du fils de Gateway, alors je sais plus comment il s'appelle, Eden Fassi, je crois,
Ouais, Eden, ouais.
qui explique comment il fait pour se téléporter et que c'est pas juste de la magie, c'est purement des maths.
Oui, alors moi ce qui m'a fait marrer c'est ce moment-là où il y a Ares qui les poursuit et il arrive à c'est comme s'il arrivait à les atteindre. Et il y a son fils qui dit oui, mais mon père n'est pas du tout bon en maths, donc peut-être pour ça que ça ne marche pas avec lui, quoi. Alors que c'est bon, évidemment, c'est une blague, mais ça m'avait fait marrer, quoi, ce moment.
Ouais, non, mais bon, c'est toujours très drôle. Il y a juste deux, trois choses. Bon, alors, il y a toujours ce problème de chronologie avec Panini et avec The List, puisque on nous parle du Zodiac, comme quoi, bah, le pote à Nick Fury, John Garrett, était Aquarius du Zodiac. Zodiac dont on apprend pas, dont on entend parler, dans The List, qui était sorti, bon, un petit peu avant aux États-Unis, mais qui était sorti le même mois. Et normalement, The List, Secret Warriors, il faut le lire après celui-ci.
D'accord, ok.
C'est
Ah
là
oui,
que ça prend son
c'est pour
sens.
ça que Nick Fury se rend chez Norman Osborn.
Voilà, c'est là que ça prend tout son sens.
Sauf que nous, on a lu ça déjà il y a 2 mois, en fait.
Exactement. Donc, pour se rappeler un petit peu et se rafraîchir la mémoire, c'est pas toujours évident.
Exactement.
Donc voilà. Bon, bah, sinon, bah, c'est la grosse baston entre Osborn et les Secret Warriors, quoi.
Ouais, avec un espèce de compte à rebours qui, sans surprise, arrive à terme et sans surprise, bah, on se doute bien que à la fin, il y en a certains qui pensent, enfin. Des Secret Warriors qui pensent que Ares est mort. Enfin, je veux dire, c'est même pas un spoiler que de dire que évidemment il n'est pas mort.
Oui, et puis bah, de toute façon, Phobos le dit bien, il en faut plus que ça pour tuer mon père. Donc,
Oui, exactement. Puis bon, tout ce qu'on sait, c'est que on annonce que, enfin, Phobos annonce que l'affrontement final, en fait, entre son père et lui, bah, est pour bientôt.
normalement, le prochain épisode.
Oui, ou peut-être dans Siege, je sais pas.
On verra bien. On passe à l'épisode d'après?
Ouais, allons-y.
Thunderbolts numéro 137. Scénario Rick Remender qui arrive sur le titre. Mahmoud Asrar au dessin et Rebecca Buchman à l'ancrage. Donc déjà c'est un épisode double.
Ouais, un épisode double et j'avais pas vu que c'était Rick Remender, donc
Eh oui.
je pensais que c'était notre ami
Andy
comment
Diggle, mais
s'appelait-il?
non.
Oui, Andy Deagle qui était en petite forme et d'accord, ok, donc maintenant je
Ah, moi
comprends mieux en
j'aimais
fait.
beaucoup ces épisodes des Thunderbolts, et là justement avec Remender on sent le changement, quoi.
Ouais, on sent le changement, c'est vraiment le scénario un peu facile. Et alors en plus,
Bah, premier
le
truc,
gros souci.
on met des personnages qui font vendre dedans, en guest star. On fait un double épisode. Tout ça pour essayer de mettre Remender sur le titre et essayer de faire vendre avec son arrivée sur le titre qui n'était pas prévu au départ, puisqu'Andy Diggle est parti assez rapidement pour aller s'occuper de Daredevil.
Exactement, ouais. Et du coup, ouais, c'est pas terrible. Et le gros problème que j'ai avec cet épisode, c'est que, grosso modo, donc Norman Osborn se sert d'Iron Fist pour piéger Luke Cage. Enfin, se sert d'Iron Fist. En fait, il manipule Iron Fist mentalement pour que ce dernier élimine Luke Cage. Le problème, c'est que donc il arrive à faire prisonnier Luke Cage, mais ça fait un petit peu double emploi avec ce qui se passe dans New Avengers, quoi.
Ben, c'est un peu le souci, c'est qu'en général, on revoit un peu les mêmes scénarios d'une série à l'autre.
Mais
Ouais.
là, c'est encore plus flagrant parce que on le verra tout à l'heure dans New Avengers. Norman Osborn, en fait, réussit à faire ce qu'il voulait faire avec Luke Cage dans New Avengers. Et là, je pensais que ça allait avoir, tu vois, que ça allait être peut-être une répercussion à ça, et puis pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir. Tu vois, le fait que, par exemple, l'homme fourmi soit dans le corps de Luke Cage, je pensais que ça allait avoir un rapport avec ce qui se passe dans New Avengers. Et au fait, non, du
Non,
tout.
non, bah oui, ça aurait pu, mais non. Par contre, il y a quand même des liens avec ce qui a été fait, puisque Ghost reparle à Norman Osborn du fait que bah, Luke Cage l'ait trahi quand il a eu besoin de lui pour retrouver son bébé, il s'est pas mis à son service, il l'a simplement laissé
Oui, non,
tomber,
mais
quoi.
ça, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois. Mais je veux dire, ce qui se passe actuellement dans New Avengers, ça fait vraiment double emploi, quoi. On se dit, mais putain, mais c'est censé se passer plus ou moins en même temps. Et puis là, d'un côté, il y a Luke Cage qui est fait prisonnier par Norman Osborn qui lui fait un truc. Et dans New Avengers, il est prisonnier par Norman Osborn en piteux état et lui fait autre chose, quoi.
Non, ouais, c'est clair. Par contre, moi, tu vois, alors déjà, il y a des choses qui m'ont fait rire, c'est que Mister X, sous la plume d'Andy Diggle, ne se faisait jamais avoir, ou presque jamais. Là, dans le même épisode, il se fait défoncer deux fois.
Oui.
Une fois par Iron Fist et une fois par Luke Cage. Donc, bah, bonjour le perso qui sert à rien. En plus, l'intérêt réel des Thunderbolts, qui est de nous faire apprécier et de nous faire nous intéresser à des personnages qui sont des personnages de seconde zone ou des ennemis... Bah, pas bien quoi, enfin des ennemis
Pas bien, pas bien.
comment dire, j'allais dire de merde, mais
Oui,
voilà,
de bas étage,
voilà, c'est le mot que je cherchais, merci.
de...
Des personnages dont on s'en fout en fait à la base, nous arriver à les faire apprécier, bah là c'est pas le cas, ça nous fait passer les Thunderbolts pour une équipe de losers, et moi ça me plaît pas plus que ça,
Ouais, Rick Remender, un petit peu ce côté série comique, enfin un petit
ouais.
peu
Alors,
humoristique.
il n'y a que le final quand même qui est expliqué par Ghost, qui est, je trouve, plutôt intelligent et qui permet de mieux comprendre.
Oui, puis oui, qui relève un petit peu le niveau, c'est vrai.
Mais à part ça, franchement, je trouve que l'épisode est pas bon.
Bon, l'épisode
Franchement.
n'est pas terrible. Par contre, il y a une très bonne réplique où il y a Mister X qui dit à l'homme fourmi, il n'y a pas plus bête qu'un mec qui fait des blagues en faisant des références de la pop culture. Tu sais, puisque l'homme fourmi lui sort une réplique comment dire, d'un feuilleton. Et là, ça m'a fait marrer parce que j'ai tout de suite pensé à Marc Millar et Kick-Ass. Voilà. Comprenne qui pourra.
Je sais pas si c'était voulu comme ça, mais en
Non,
tout cas,
non, 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 bah non, bah
Ant-Man,
oui, non, pas du tout, mais je veux dire, bon, voilà, quoi.
Ant-Man le mal aimé quand même. Hein.
Hein?
Il est vraiment mal aimé de tous ses potes. Hein. Enfin, ses
Oui,
coéquipiers, disons.
tout à fait, ouais, non, non, ouais, c'est vraiment le rejeté du groupe.
Même
Mais
Iron Fist
ça
le
encore,
rejette.
Remender l'a bien pris ce personnage, puisqu'on retrouve vraiment le Ant-Man comme il était sous la plume d'Andy Diggle aussi.
Voilà, donc franchement, un pauvre épisode de Thunderbolts, quoi. Très très
Je vais
pauvre.
dire un truc atroce.
Non, non,
Non.
un très très pauvre, quoi. Franchement, si c'est ça, Thunderbolts sur Remender, bon, je lui laisse la chance du mois prochain, mais voilà,
Mais il
quoi.
va pas rester longtemps, j'ai l'impression.
Non, puisque bah, par la suite, ce sera Jeff Parker.
Jeff
Après
Parker,
Siege.
qui arrive à faire quand même des choses intéressantes.
Donc voilà, je
On
crois que
termine.
Remender reste jusqu'à Siege.
D'accord.
Voilà. Oui, on termine avec un mini épisode Goblin Legacy, enfin Dark Reign Goblin Legacy. Alors, dans cet épisode en VO, on avait deux réimpressions, Amazing Spider-Man 39 et 40, mais on avait quelques nouvelles pages qui font le lien, c'est ce que vous avez là. Écrite par Carl Kaisel et dessinée et ancrée par Mike Mayhew. Ça sert à pas grand-chose en fait. Hein.
Non, c'est joli, c'est tout.
Oui, c'est beau. On voit que Victoria End enquête sur le passé de Norman.
Voilà, et
Voilà,
puis
elle
du coup,
essaye
ça
de
nous permet de
découvrir des trucs.
revoir Bah surtout Peter Parker en fait qui reparle de l'incident, enfin l'incident, la disparition de Gwen Stacy quoi, entre autres.
Oui, pas que ça quoi. Enfin, le moment où il avait découvert son identité, je crois, le 39-40.
Ouais.
Voilà. Donc c'était, c'est juste pour faire un lien, mais bon, vu que plus personne s'en souvient. Puis pour finir, on avait aussi quelques pages façon encyclopédie Marvel, quoi. Quelques
D'accord.
pages de pouvoir, etc. Bon.
Bon, c'était vraiment un épisode pour 6 pages, 6 pages dessinées par, tu rappelles le nom de l'artiste?
Mac Mayhew.
Mac Mayhew. Donc non, mais c'est vrai que c'était plutôt beau, hein. Mais
Ah ouais, non, franchement, ouais.
Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas de réel intérêt hormis les dessins.
Une Victoria End qui, c'est vrai, je l'avais jamais dit, mais ça me fait vraiment penser à Baroness de G.I. Joe. En tout cas, la version animée.
Ah carrément, ouais, totalement. Ouais. Tiens, c'est drôle. Bah,
encore plus sous ces crayons-là, quoi.
Je sais pas si je crois que c'est Bendis qui a dû la créer parce
ouais,
que.
Ouais, non, mais c'est vrai que depuis le début, mais là, c'est vrai que sous les crayons.
Mais je crois que Bendis a scénarisé du G.I. Joe. Attends, non?
Ah,
Ah
je
non.
sais pas. Non, je crois pas.
Non, bon, d'accord. Mais donc je dis une bêtise, mais par contre, peut-être qu'il y a pensé à cette baronesse pour faire
Cam, il fait vraiment
Victorien.
penser avec ses mèches et puis ses lunettes, etc. Enfin, le côté froid aussi.
Oui, et puis quelquefois, il est en costume en plus d'intervention du Shield, et ça donne vraiment l'aspect G.I. Joe, quoi.
Voilà. Donc, un Dark Reign un peu moyen, je trouve, quand même. Hein. Par Dark Avengers, baf baf, quoi.
Ouais. Ouais, en petite forme, ce mois-ci, Dark Reign.
Bon, ça arrive. Espérons que le mois prochain, ça se reprenne. On va finir les reviews de cette première quinzaine avec le Marvel Icons numéro 64. Les deux premiers épisodes du mag, ce sont les Avengers numéro 50, les New Avengers, pardon, numéro 58 et 59. Le scénario est de Brian Bendis, les dessins sont de Stuart Timonen et l'ancrage est de Wade Van Grafberger.
Oh putain, n'importe quoi.
Ouais, je speech, je prends train.
D'accord.
Non, en réalité, j'embauche. Mais donc on se dépêche. Alors, Luke Cage est dans le caca. Hein,
bah,
il est tout en train de mourir.
Il est mal au point.
Il est en train de mourir et puis Norman propose de le. Enfin, se voit obligé de le sauver en fait.
Ouais, ouais,
mais
avec une
prix.
Contrepartie, évidemment.
Voilà,
sans
mais
doute.
À un prix normal, c'est Norman Osborn.
Mais justement, c'est un peu ça, quoi. Les deux épisodes, c'est grosso modo les New Avengers qui vont essayer d'aller tirer Luke Cage d'affaire.
Accompagné
de
guest stars d'ailleurs, puisque beaucoup de monde, beaucoup de potes de Luke Cage viennent donner un coup
ouais.
de main aux Avengers. On a donc le Docteur Voodoo, Misty Knight, The Thing, Iron Fist, Hellcat, Valkyrie, Daredevil et Doctor Strange.
Ouais.
Ça fait pas mal, quoi.
Oui, ça fait pas mal, mais en gros, les New Avengers arrivent donc à récupérer Luke Cage, mais ils se doutent pas, tu sais, ils pensent qu'ils ont eu Norman Osborn, mais en fait, ils se doutent pas que Norman Osborn avait pris le coup. Je trouve ça un peu gros et un peu, tu vois, le payoff, comme diraient les Américains, à la fin de tout cet arc, il est bien mince, quoi, parce que...
Moi, ce qui me gêne, c'est que ça, ce sont en deux épisodes. Enfin, ça traîne en longueur, cet arc, c'est de la décompression, mais plus qu'à l'extrême.
Ah oui, non,
et
mais c'est pas,
c'est,
en total, il y a eu, je sais pas combien d'épisodes.
4, je crois.
Ouais, avec tout le passage, là, avec la machine de Jonas Arrow, qui leur retirait leur pouvoir, etc.
Bah, je crois que c'est que 4.
Déjà, c'était pas passionnant, mais alors, Luke Cage, machin, enfin, en plus, on se doute bien qu'il va pas y passer, Luke Cage.
Bon, il y a des bonnes idées, genre, attaquer, le camp des Thunder, de l'initiative pour faire
oui.
diversion, voilà.
Ça m'a fait rire. Avec la tête, tu sais, du maître des corvées, là, qui fait alerte rouge. réveiller Norman.
Voilà, mais bon.
C'est le mec tout paniqué parce que d'un seul coup, il y a plein de vengeurs qui arrivent sur le camp et qui pètent tout.
Ça reste sympa à lire parce qu'on a les deux côte à côte. Hein. Parce que franchement, avec un mois d'attente entre les deux,
ah oui, oui,
c'est lent, mais c'est d'un lent, ça n'avance pas, quoi.
Oui, enfin c'est oui voilà, ça reste sympa à lire parce que bon c'est écrit par Bendis donc c'est très fluide à la lecture. C'est pas désagréable à la lecture.
C'est fluide
mais...
à la lecture, mais alors à l'écriture il est fluide aussi.
Oui, voilà.
Ah non, il délaye, hein, putain.
Non mais voilà, ouais, non, c'est ça. Non mais les idées sont, enfin je sais pas quoi, il y a une idée par arc et encore. Enfin voilà. Et alors que quand on compare ça avec Mighty Avengers, voilà.
Tout de suite là voilà.
C'est flagrant, quoi. Il se passe 40 000 trucs par épisode.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis le début du Dark Reign, dans New Avengers, il s'est rien passé.
Ouais.
Ou
non,
presque
mais...
rien.
Et franchement, si on peinerait à résumer ce qui s'est passé, même depuis Secret Invasion et tout, parce que Voilà, quels sont les épisodes qu'on a retenus depuis Secret Invasion de New Avengers?
On a une impression d'un gros tout, mais pas d'épisode en particulier.
Non, d'un gros tout, c'est toujours face à The Hood, face aux démolisseurs, face à... Enfin, tu vois, avec tout, ouais, tout, ou bien alors face à Dormammu, mais voilà, c'est tout.
Ah Pierre, les New Avengers, c'est devenu Luke Cage et les New Avengers.
Ouais, Luke Cage et Jessica Jones, quoi. Enfin, vraiment, c'est, on voit que c'est les deux personnages favoris de Bendis.
Jessica Jones, que j'ai trouvé insupportable, en plus, dans cet épisode, toujours à
chialer. Ah, bah tiens, ça me fait plaisir.
Ah, dans cet épisode-là, elle est vraiment insupportable. Oh, non, je vais y aller toute seule, je chiale, je vais y aller toute seule, je chiale. Putain, mais fais-lui manger son bébé, je sais pas.
Oui, oui, voilà, chialer, ça lui fera du bien. Non, non, mais moi, toute la famille, une des bêtes. Une des bêtes.
Toute la famille Cage, dehors.
Ouais ouais dehors, tue les tous, je sais pas, c'est pas comme les Pokémon attraper les tous, là c'est la famille Cage, tue les tous. Faudrait, moi si j'étais scénariste, je leur préparerais une petite mort aux petits oignons là. Je sais pas,
il y aurait en prison dans la zone négative là pendant quelques années.
Non mais il y aurait Purpleman qui reviendrait et qui ferait vraiment un sale coup à Luke Cage. Il broierait son bébé, il en ferait un banana split devant lui. Il y aurait Luke Cage qui ferait ouh et puis. Oh bon, bref.
On voilà. Pourrait peut-être mettre ça en bonus. Putain, j'ai la voix qui se barre. On pourrait peut-être mettre ça en bonus sur le DVD de notre version de Doctor Strange avec des chansons.
Ah oui, oui, je pense aussi. Je pense que ça marcherait super bien. Enfin bref, voilà.
Deux épisodes sympathiques, mais super lents, quoi.
Voilà.
Donc c'est déjà la moitié du mag.
Ouais.
On passe à un épisode qui est lent aussi, hein. Le Iron Man numéro 18, partie 11 de World Most Wanted. 11. Hein. Scénario Matt Fraction, dessin Salvador Larocca. Et donc Tony Stark arrive en Afghanistan, là où tout a commencé, c'est ce qu'il dit. Donc les origines sont clairement updatées maintenant.
Ouais, et j'ai trouvé ça super poussif cet épisode, notamment tout le passage avec les deux petits Afghans
ouais.
qui viennent lui demander de leur construire une arme, parce que c'est le maître en ce qui concerne... Les armes de destruction massive, enfin bon, ça fait vraiment cliché, quoi.
Alors que lui vient juste récupérer son armure Mark Zero.
Non, mais en plus, il vient à peine de rentrer dans le truc, et comme par hasard, il y a deux... Enfin, je sais pas, le truc est désert, et d'un seul coup, il y a deux Afghans qui arrivent à rentrer comme ça, deux petits enfants qui arrivent à rentrer. Enfin, je sais pas, la scène m'a vraiment, alors là, cliché plus 1000, quoi, tu vois, c'est...
Ouais, puis le côté, bah vas-y, tue-moi. Ah,
c'est bon. Ouais.
Je sais pas, là, franchement, j'étais pas accroché, quoi. Puis alors...
Le twist.
Ouais, le coup de paper, mais je l'avais annoncé le mois dernier.
Oui, oui, voilà.
Je le sentais venir, ça se sentait venir, mais comme le nez au milieu de la figure.
Bah ouais, ouais, ouais. Non, enfin voilà, donc il se passe pas grand-chose. Ouais, qu'est-ce qui se passe d'autre, d'ailleurs?
Bah, on se prépare un affrontement final.
Ouais, on se prépare un affrontement final, bon, qui pourrait peut-être être intéressant. Mais bon, tout ça pour ça, et puis c'est pareil, là, World's Most Wanted... 12 parties au total, pour les résumer, qu'est-ce qu'on aura retenu? Bah, pas grand chose, quoi, finalement. Parce que il s'est passé tellement de trucs, mais c'était tellement délayé que, voilà, quoi. Hormis, Madame Masque, une apparition de Namor, je me rappelle un moment, et puis, de War Machine, bof, quoi. En gros, c'est Tony Stark qui veut ôter de sa mémoire tout ce qu'il sait, et puis voilà.
Non, c'est encore un petit épisode, hein. Franchement. Là, ça traîne vraiment en longueur, vraiment vivement qu'on arrive à la fin.
C'est ouais.
Ras-le-bol.
Oui. Les répercussions sont peut-être plus intéressantes que tout cet arc qui n'a que trop duré. Il l'aurait fait en 6, ça aurait vraiment eu plus d'impact.
Je pense aussi.
Donc voilà. Là, c'est trop. Quoi.
Un an quand même. Un an. Tout le Dark Reign.
Et c'est con, hein, parce que l'histoire est pas mauvaise.
Non,
mais,
c'est pas mal en plus, c'est ça. C'est ça le problème, quoi. C'est que là, c'est vraiment. Il s'est sabordé lui-même hein, en faisant traîner ça en longueur, c'est dommage. On passe au dernier et meilleur épisode du mag, hein,
oui.
Le Fantastic Four numéro 570, scénario de Jonathan Hickman et dessin ancrage de Dale Gulsham. Donc arrivée de Jonathan Hickman, on l'a attendu, on l'a voulu, maintenant on l'a.
Enfin, faut pas déconner, oui.
Moi, ça fait des mois et des mois que j'attends que Millar se barre pour pouvoir lire enfin Jonathan Hickman.
D'accord. Donc, moi, j'étais un peu moins, je l'attendais un peu moins parce que j'ai pas fait tellement gaffe à ce qui se passait sur les Fantastic Four. Mais de toute façon, si vous écoutez les Comics Weekly, vous avez vu que j'en ai lu un récemment que j'ai bien accroché. Et voilà. Mais moi, je savais qu'il allait arriver, bah, surtout depuis qu'il y a eu en français les Dark Reign Fantastic Four.
Et ben d'ailleurs Dark Reign Fantastic Four qu'il faut absolument lire avant ça. Enfin,
oui, absolument. Oui, absolument, ouais.
Disons que on peut arriver à comprendre, mais c'est plus chaud, quoi. C'est vraiment indispensable. C'est vraiment
c'est plus chaud.
épreuve, quoi.
C'est plus chaud. Alors par contre, il y a un truc qui m'a étonné dans la postface là. Il y a des bon, je crois que c'est Christian Grasse qui dit que en gros, Jonathan Hickman n'a pas lu grand-chose des Fantastic Four, donc il a une vision un peu encore, tu sais, assez fraîche, quoi, des personnages, mais qu'il a bien l'intention de faire des choses nouvelles qui n'ont jamais été faites. Alors bon, je sais pas, moi ça me semble contradictoire. Le mec a pas tout lu, enfin a lu très peu de Fantastic Four et il espère faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Mais comment peut-il le savoir que ça n'a pas été fait? Parce que là. Là,
C'est là que sert un
l'exemple.
éditeur, c'est à
Non
ça.
mais justement, mais l'exemple frappant, c'est ce premier épisode. Il est pas mauvais du tout, mais le coup, on va pas révéler ce que c'est qu'on voit à la fin, mais ce coup-là, on l'a déjà vu dans des runs pas si anciens, quoi, il y a quelques années. Voilà. Donc bon.
Moi, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut dans cet épisode. C'est-à-dire
Oui.
qu'on commence
Non, mais
par
pour faire
une
du bon
énorme
Fantastic
baston.
Four, je suis entièrement d'accord. Oui.
On commence par une énorme baston contre des méga robots géants, enfin le truc pour les Fantastic Four.
Exactement.
Ensuite, on a un passage hyper familial où on voit la famille évoluer, les enfants, tout ça. Excellent. Et enfin, on a Reed et la science et un plot qui se dessine. Et puis,
Alors,
quel plot!
on a même une petite histoire en fait autocontenue avec, on peut le dire, un ennemi bien connu des Fantastic Four.
Oui, mais à mon avis, je pense pas que ça va en rester là. Je pense que
Ah non, non, bah du tout, oui, non, mais ça va continuer. Mais en plus
enfin,
de
ce
ça,
serait
on
con
a.
de s'arrêter là, en tout cas.
Oui. Et en plus de ça, on a ce cliffhanger final.
Moi, j'ai trouvé ça monstrueux, en plus. Ah, le cliffhanger, je l'ai trouvé monstrueux.
Oui, mais alors, mais peut-être n'avais-tu pas lu les épisodes auxquels je pense.
Non, je pense, parce que moi, il y a très longtemps que j'avais arrêté Fantastic Four. J'avais
Voilà,
repris, de toute
c'est
façon,
pour ça.
Marvel
Moi, c'est des
en...
épisodes après JMS, je crois, après JMS sur Fantastic Four et avant Mark Millar, donc, qui m'ont fait penser un peu à ça.
Moi, le Marvel, en général, j'avais arrêté, j'ai repris surtout pour le podcast.
Oui, bah, je crois que c'était des épisodes de. Je sais plus, je pense que c'était lui qui. Enfin, c'était celui qui faisait Exil, peut-être? Ah non, peut-être pas.
Tony
Non,
Bella?
je sais. Non, c'était pas Tony Beda. Bah, je sais plus. Ah non, non, je sais plus, non.
Je vois.
Dwayne McDuffie, je crois, qui était sur les 4 Fantastiques. Non?
Peut-être. Possible. Possible. Je sais pas.
Bon.
En tout cas, moi, franchement, j'ai été vraiment emballé. Un début de run vraiment excellent. Surtout qu'en plus, comme je n'ai pas du tout accroché au fantastique de Mark Millar, que je trouvais meilleur sur Ultimate Fantastic Four, voilà, j'avais qu'une hâte, c'est que quelqu'un dégage. Donc ça amplifie, enfin que quelqu'un le dégage et prenne sa place, et ça amplifie ce sentiment de c'est vachement bien.
Et puis,
Les
ce qu'il faut.
dessins des Gulcham sont magnifiques
Alors oui,
aussi.
alors par contre, ils sont magnifiques, mais par contre, Red et Johnny, je sais pas, ils ont fait une cure comment dire, de créatine, parce que les mecs sont super bodybuildés d'un seul coup, avec
Ah,
leurs manches retroussées.
j'ai pas fait attention. Oui, il y a un léger changement de costume, hein, d'ailleurs.
Oui, ils ont les manches retroussées, puis du coup, enfin,
Ouais, des manches courtes. Ouais.
on voit leurs bras, quoi. Ouais, ils ont des manches courtes et ils sont super baraqués, aussi bien raides que Johnny, quoi. Donc c'est, ça m'étonne parce que d'habitude ils sont pas quand même à ce point-là. Là, on dirait vraiment des catcheurs, quoi.
Reed a pris aussi un petit coup de vieux, hein, sous les traits de David Gulcham.
Oui,
C'est pas plus
mais
mal, je trouve que ça me fait, quoi. J'aime beaucoup son Reed, en tout
ouais,
cas.
un petit peu là avec la barbe naissante et tout. Bah, c'est un petit peu normal aussi, hein. Et puis des cheveux blancs. Enfin bon. Bah, en tout cas, ça démarre très bien, donc effectivement, j'attends la suite avec impatience.
Et moi, franchement, le meilleur épisode du Max, sans conteste.
Bah, peut-être l'un des meilleurs épisodes de ce début de mois, en tout cas.
Ouais. Oh, quoique, le Mighty, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé.
Ah, moi, j'ai même préféré le Fantastic Four. Comme quoi.
Et puis,
Donc voilà.
le liste Daredevil aussi, quand même.
Et ouais.
Quand on sait les répercussions que ça a, voilà.
Voilà. D'ailleurs, je savais pas que c'était dans cet épisode que ça allait arriver, ce
Mais moi
truc.
non plus, moi non plus. Donc voilà, j'étais très content de le lire.
Voilà, moi aussi.
Les auditeurs de Comics Weekly savent de quoi nous parlons. Bien, bah quand même un mois, un début de mois en tout cas dans l'ensemble qui est plutôt pas trop mal, hein, ça fait plaisir.
Et oui, Jean-Pierre, tout à fait. Et oui, Jean-Michel. Donc alors, reçu des mails.
Oui, trois mails. Alors, je vais commencer par le mail. Oui, c'est toujours les feuilles, hein, puisque je les imprime.
Il fait semblant en fait, Steve, pour faire genre qu'on fait les choses bien.
Non, je les imprime pour pas avoir à chercher sur le PC en même temps. Un premier mail de Gambs qui nous disait bon, qu'il n'arrivait pas à laisser de com sur le dernier podcast, mais on a eu un souci avec les commentaires sur Internet Explorer. On essaye de résoudre le problème. Enfin, en tout cas, Claire s'en occupe, hein, c'est elle qui s'occupe de toute cette partie technique. Et bon, pour le moment, pas de solution, à part installer Firefox, Chrome ou Opera. enfin n'importe quel autre navigateur que Internet Explorer en fait. Donc voilà, donc comme ils ne pouvaient pas nous laisser un com, ils nous envoyaient un mail, et ils disaient que dans le Marvel Universe Sorcier numéro 7 qu'on a chroniqué dans le Comic City 35, il ne s'agit pas de la vision des Vengeurs, mais de la toute première. Son apparence est donc bien respectée. Voilà. Donc,
ah oui,
merci.
D'accord.
Voilà, merci. Et ils nous laissent un lien aussi pour aller voir une fiche technique sur la vision.
D'accord, voilà, c'est vrai que j'avais un doute sur la vision qu'on pouvait voir dans cet épisode. Et donc, effectivement, c'est l'ancienne version, c'est ça.
Voilà, donc merci à lui de nous rectifier. On aime bien se faire reprendre quand on dit une connerie.
On aime bien se faire fouetter aussi.
Tu aimes bien.
Je précise.
Tu aimes bien, monsieur Arnie Bonnet.
Voilà.
Un message de Kindega. Pardon, j'ai mal prononcé. Oula, j'aime pas en plus.
Ça lui fera plaisir, je pense.
King Edgar, oui, excuse-moi.
King Edgar,
non, c'est qu'en fait je lisais mal les lettres.
Comme
c'est
Edgar accroché. De la cambriole, quoi.
Peut-être. Edgar. King Edgar, c'est mieux parce que en fait, comme tout était accroché, je savais pas où mettre un blanc. Donc son message. Bonjour, j'ai découvert Comic City la semaine dernière. J'ai tout de suite été enthousiasmé par vos podcasts d'excellente qualité.
Alors, ah bah c'est pas trop tôt la semaine dernière. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Le chieur. C'est vraiment très plaisant de vous écouter. On voit que vous maîtrisez vraiment bien votre sujet. Les comics et moi. On s'est beaucoup tourné autour, mais ça fait 3-4 ans que je les lis régulièrement. Un petit commentaire cependant par rapport à votre podcast. C'est dommage que vous n'abordiez pas plus souvent l'univers Ultimate chez Marvel. Pour tout dire, j'ai entendu qu'une seule review d'un fascicule Ultimate dans vos podcasts. Oui, c'était le Ultimate 2, je crois.
Oui, un truc comme ça. D'ailleurs, on aurait pu faire la suite, mais on l'a pas fait.
Ultimate Avengers, je sais plus, enfin le truc de Mark Millar, là.
Oui. Oui, bah Ultimate Comics Avengers.
Ah voilà, c'est ça, Ultimate.
Volume 1, numéro 1, 2, plus Alpha 3.
Bienvenue à toi, Street Fighter.
Voilà.
Voilà. Est-ce parce que vous n'aimez pas, ou est-ce juste un choix éditorial de se consacrer presque uniquement au côté Earth 616?
Joker.
Personnellement, je trouve que c'est une série très intéressante, fun et pleine de surprises, et qui a le mérite de pouvoir être abordée dans sa globalité sans avoir besoin de dévaliser toute la Banque de France.
C'est vrai.
En attendant votre réponse, bonne continuation et bonne lecture. Et si j'avais lu en bas King Ed, j'aurais vu où était la deuxième majuscule, ça aurait été plus simple. Donc bah oui, alors pourquoi on n'aborde pas plus souvent l'univers Ultimate? Est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas ou un choix juste éditorial? Alors oui, c'est vrai que déjà se concentrer, en tout cas pour ma part, se concentrer sur l'univers 616, c'est mieux. Enfin, la Terre 616, pardon, je ne confonds pas avec DC. C'est ce qui m'intéresse plus, puisque bah, honnêtement, un monde où il n'y aura aucune conséquence, personnellement je m'en fous un peu plus. Donc voilà, et puis bon, je suis pas super fan, quoi.
Bon alors, moi, personnellement, j'ai suivi pendant des années Ultimate Spider-Man, j'en ai lu au moins une centaine, autant dire une bonne partie, quoi, les trois quarts, mais j'ai arrêté depuis, je ne supporte pas David Lafuente et puis la nouvelle direction du titre. Ultimate, j'ai lu les deux premiers volumes, mais Ultimate Comics Avengers me semble bien inférieur, et puis de toute façon, Ultimate, j'ai jamais été vraiment très fan. Et grosso modo, j'ai quasiment rien lu des Ultimate Fantastic Four ni des Ultimate X-Men. Par contre, j'ai lu des mini-séries comme Ultimate, je sais plus si c'était Mystery ou Enemy ou je sais plus quoi. Ultimate Origin, tiens, par exemple, j'ai lu. Mais on pourrait faire un jour un spécial peut-être sur les Ultimates, mais enfin sur l'univers Ultimate. Mais
ouais, c'est une bonne idée ça.
Mais voilà, pour vraiment traiter un petit peu de tout. Bah, disons que voilà, c'est un univers auquel je me suis intéressé au début parce que justement c'était intéressant de s'intéresser. Enfin, c'était un nouvel univers pour initier des lecteurs lambda, voilà, aux comics. C'était intéressant cette démarche de reprendre des histoires et de les réécrire, de les retravailler, de les mettre au goût du jour. Mais maintenant, en fait, je trouve que c'est un univers qui est devenu limite aussi compliqué que le 616. Parce qu'il s'est passé plein de trucs. Il y a eu des séries comme Ultimate Origin qui t'expliquent que Captain America, au fait, son sérum de super soldat, c'est ce qui sert aussi à faire le super bouffon, et puis enfin le bouffon vert, enfin bref, etc. Je sais pas, il y a eu plein de trucs qui se sont passés dans cet univers qui fait que finalement il y a eu Ultimatum, etc. Et bon, maintenant c'est devenu vraiment un univers à part entière et enfin voilà, il m'attire pas plus que ça, quoi. Et puis en plus, je sens qu'il est moribond quand même, à force. Je sais pas si ça va encore durer très longtemps, honnêtement.
Moi, enfin, le principe de l'univers Ultimate, moi, m'a saoulé en fait d'entrée de jeu. Parce que, voilà, c'était à l'époque où Joe Quesada est arrivé en tant que directeur en chef, en tant qu'éditeur en chef de Marvel. Il avait pas mal les commandes. Et bah, il a décidé d'arrêter pas mal de séries, notamment des séries comme Generation X, etc. pour nous refaire ensuite des séries pareilles, quoi. C'est-à-dire qu'il a coupé plein de séries pour finalement nous refaire un univers à part, soi-disant pour les nouveaux lecteurs, etc. Je sais pas, moi je sentais que c'était la pompe à fric. Alors, même si les scénars étaient sympas, parce que j'ai lu le début d'Ultimate Spider-Man, j'ai lu aussi pas mal les X-Men, j'ai dû m'arrêter aux alentours de la trentaine parce que ça m'a vite gonflé, ça n'allait pas du tout dans des directions que j'appréciais.
Quand tu
J'ai
dis
lu.
t'as arrêté aux alentours de la trentaine, c'était pas ton âge hein, à l'époque. Hein,
Oui, non, de la trentaine de numéros. US, pas VF.
que Steve a 60 ans, il faut le dire.
Ouais. qu'est-ce que j'ai lu aussi? J'ai lu pas mal Ultimate Fantastic Four que j'ai par contre trouvé plutôt pas mal. Là, ça avait été une bonne surprise. J'ai testé le premier TPB comme ça, vraiment au hasard. Et puis j'ai été pas mal accroché en fait. Donc voilà, j'avais lu ouais, pareil, une trentaine, quarantaine d'épisodes, pas plus. Une trentaine, j'irais. Et là, franchement, j'avais été surpris par Mark Millar d'ailleurs. Donc, bon, il y a eu des choses sympathiques, et puis voilà, comme tu l'as dit, Benny, pour moi, c'est un univers qui est censé être pour les plus nouveaux lecteurs. Alors, c'est sûr, ils n'ont pas besoin de se taper toute la continuité Marvel. Bon, maintenant, ça fait 10 ans que ça existe.
Bah oui, voilà, c'est ça.
Ça devient vraiment compliqué. Il y a eu 10 ans d'histoires qui ont été écrites,
Ouais.
ça devient chaud, quoi.
Et ça, c'est vraiment parti dans un truc très différent de. En fait, à l'époque, ça s'inspirait pas mal de ce qui s'était passé dans l'univers Marvel classique. Mais maintenant, je veux dire, Ultimatum, c'est un événement à part entière. Il n'y a pas eu l'homologue de ça dans l'univers classique Marvel. Donc, c'est vraiment devenu un univers, ouais, voilà, avec sa propre histoire.
Il y a quand même un avantage à lire l'univers Ultimate, c'est que, comme ce sont des parutions récentes, tout est trouvable en TPB. Tout.
Oui, tout.
Donc c'est vrai que si
On peut
quelqu'un
s'en
se
faire tout.
prend d'amour pour cet univers, il peut vraiment tout se faire. C'est possible.
Mais on pourrait se faire, par contre, effectivement, un spécial
Ben, je
sur
pense, oui,
Ultimate.
qu'on va l'envisager, oui, effectivement.
Ouais,
Alors je sais pas
et d'ailleurs,
quand,
on
mais
l'appellera Ultimate Comic City Podcast pour avoir un nom
peut-être,
à la Ultimate maintenant.
Ok. Bah voilà, donc j'espère qu'on a pu répondre à ta question. C'est vrai qu'on se consacre vraiment plus à la Terre 616 parce que bah c'est en tout cas pour moi la seule.
Oui, puis il faut faire des choix parce qu'il y a énormément
Ouais,
de trucs
puis
à
ouais.
chroniquer, puis on peut pas tout faire.
En plus, oui. Parce que là on réduit de plus en plus, enfin on a essayé de réduire un petit peu le nombre de parutions parce que ça devenait vraiment difficile avec le boulot et tout de pouvoir enregistrer et surtout de pouvoir monter des podcasts de 2 heures et demie.
Et
Donc
puis de pouvoir tout acheter aussi parce qu'il faut faire des choix financiers.
aussi, oui, aussi. Donc voilà, puis avec le Comics Weekly en plus, ouais, ça fait une grosse charge de travail. On est obligé de réduire un petit peu. Et voilà. Donc déjà, c'était pas une priorité. Maintenant, à moins d'un gros événement, il y a peu de chances qu'on en reparle. Et bien sûr, on en reparlera dans un spécial, ça c'est certain.
Oui, puis on en parle dans les Comics Weekly aussi.
Oui, de temps en temps.
Ouais.
Voilà. On passe au dernier mail. C'est un mail de Nono, qui commente régulièrement sur notre site. Alors, coucou à vous, est-ce que ce serait possible d'avoir une explication concernant les nombreuses parutions X-Men? Je m'y perds un peu entre Uncanny, Legacy, le relaunch avec les vampires, etc. Oui, donc là, ça c'est pour le Weekly. En français, X-Force et Cap sont publiés dans Astonishing, mais il me semble qu'en VO, Astonishing était un relaunch total de l'univers X. Et on retrouve la continuité dans la publication Panini X-Men, l'arrivée de X-Force dans Utopia par exemple. Bref, est-ce Panini qui merde, volontairement ou pas, dans ses revues? Quels sont les liens entre les différentes revues VO et VF? Et est-ce que Benny est bien orni?
Alors, ça fait beaucoup de questions tout ça,
Voilà.
dont une qui n'a rien à voir avec X-Men.
Commence par la plus importante. Es-tu bien orni?
Oui, je le suis. Oui, et puis d'ailleurs, on peut dire que c'est un rapport plus ou moins lointain avec les X-Men. Mais bon.
J'attends la réponse, la fin de l'explication plutôt.
Ah non, non, bah il n'y en a pas.
D'accord. Alors, bon, on va essayer de faire. Essayer de simplifier un peu les choses. Alors, la série, la revue en tout cas française Astonishing X-Men s'appelle Astonishing parce que la série principale qui était publiée dedans était justement la série Astonishing X-Men, tout simplement. Mais comme c'est un magazine kiosque avec donc 4 places disponibles, vous ne pouvez pas mettre 4 Astonishing X-Men et le sortir en mensuel. Donc
Oui,
il a
et
fallu
puis de
qu'ils
toute
mettent
façon,
d'autres
c'est ce
choses.
qui a été plus vendeur aussi, il faut dire, comme titre.
Oui. Mais parce que c'est vrai que s'ils avaient mis X-Force, Cable ou un truc comme ça, les gens n'auraient pas forcément acheté pensant que ça aurait été que sur cette série-là.
Exactement. Voilà. Donc, le titre principal, c'était Astonishing X-Men, et autour de ça, ils ont greffé progressivement. Donc, il y avait les exilés aussi pendant un moment,
Ouais, il y avait X-Factor.
X-Factor et Cable. Et X-Force. Et donc maintenant, en ce moment, c'est surtout Astonishing
Astonishing n'y est
X-Men.
plus.
Mais ouais, une fois de temps en temps, on va dire. Mais il n'y en aura pas beaucoup, en tout cas, dans les mois à venir.
Vu les retards sur le titre, ça risque
Il y
quand
a
même.
du X-Factor, il y a du X-Force, du Cable. Et grosso modo, moi, c'est un titre que j'aime beaucoup, Astonishing X-Men. Je trouve que les séries, globalement, depuis quasiment depuis le début du magazine, sont vraiment pas mal. Bon, il y a eu tout un moment où il y a eu Excalibur, c'était pas terrible.
À part ce mois-ci aussi. Du coup, on n'en a pas parlé
Oui,
parce que...
voilà, on n'en a pas parlé ce mois-ci, parce que c'est vrai, ce mois-ci, c'était pas forcément
Non,
extraordinaire.
c'était moyen, quoi. Pas grand-chose à en dire. Donc voilà.
Ouais. Il y a Dark Wolverine aussi, bon, pareil, ça dépend. Mais grosso modo, Astonishing X-Men n'est pas un mauvais magazine. Et puis à côté, il y a X-Men, donc le magazine principal.
Avec la série donc Uncanny X-Men, qui est la série principale des X-Men. On a aussi X-Men Legacy, qui est anciennement la série X-Men tout court, mais qui a changé de titre après Messiah Complex, qui s'appelle Legacy, et qui
En
traite...
fait, c'est ouais, la seconde série X-Men régulière, on va dire, quoi.
Voilà. Et qui maintenant traite plus, enfin traitait en tout cas à l'époque plus du cheminement de Xavier, et donc c'était vraiment deux séries bien distinctes. Bon, aujourd'hui elle a un petit peu changé de direction, elle s'intéresse plus à Rogue et Gambit, mais voilà. Le relaunch dont tu parles, Nono, avec les vampires, c'est pas pour tout de suite en français, hein, faut attendre 8-10 mois, je dirais.
Ouais.
Donc c'est une troisième série régulière X-Men.
Qui sera à mon avis dans le magazine X-Men?
Il y a de fortes chances. Alors, bon, les différentes séries, donc on a Uncanny X-Men, on a X-Men Legacy, on a cette nouvelle série X-Men qui va débarquer bientôt, mais on a aussi X-Force, qui est une équipe à part, même si il y a des X-Men dedans, il y a Cable, qui est un personnage solo dans sa propre série, on a Dark Wolverine et Wolverine, qui sont à part aussi. C'est vrai que ça paraît très compliqué comme ça. Mais c'est un peu comme les Avengers aujourd'hui, quoi. Bien, on a
Oui,
New
voilà.
Avengers,
C'est-à-dire
on a
qu'il
Mighty Avengers, on a Initiative, on a
y a... Ouais, il y a
Thunderbolts.
vraiment, des séries qu'on peut lire séparément. On peut lire, par exemple, on peut lire très bien, par exemple, que Cable et X-Force. Bon, alors c'est Cable et X-Force, c'est des séries généralement qui s'entrecoupent, enfin qui se rejoignent, donc elles vont plus ou moins ensemble. Mais on peut lire parfaitement que ces séries-là dans les séries mutantes, si on veut. Ou bien on peut lire que X-Factor, par exemple.
Oui, X-Factor est vraiment à part aussi du reste de l'univers mutant.
Encore plus, alors encore plus, X-Factor, c'est vraiment un truc. On peut lire quasiment tout le dernier volume d'X-Factor, du début à la fin, sans lire aucune autre série mutante, et pourtant bien accrocher et bien comprendre ce qui s'y déroule.
Mais pour avoir l'histoire principale, on va dire ça comme ça, en tout cas la trame générale des X-Men, bah c'est faut lire Uncanny X-Men en fait. C'est
Ouais.
vraiment la série principale comme New Avengers est la série principale du flagship Avengers.
Et alors, je veux pas être méchant, mais c'est souvent pas la meilleure, justement.
Mais voilà. La
C'est ça
preuve
le
en est
problème.
aussi avec New Avengers.
Oui, ouais. Voilà.
En tout cas en ce moment.
Donc,
Donc,
alors,
à la
et c'est
réponse
vrai.
est-ce Panini qui merde? Bah non, enfin ils font ce qu'ils peuvent. Là, c'est vrai que honnêtement, c'est pas des choix faciles à faire de choisir de mettre telle série ou telle série dans un mag. C'est vrai que c'est pas évident.
Non, enfin bon, de toute façon, depuis le début, ils ont mis dans le magazine X-Men Uncanny et X-Men. Enfin, la
Oui.
seconde série régulière,
Pas au
voilà.
début d'ailleurs, c'est
C'est vrai,
arrivé
oui, c'est vrai.
que l'épisode, enfin le numéro 25, je crois, un truc comme ça, parce qu'avant c'était
Ouais.
dans X-Men Extra, enfin
C'est vrai.
systémique.
C'est vrai. Mais
Et d'ailleurs, ça a
bon.
été un des meilleurs choix qu'ils aient pu faire de mettre et Uncanny et X-Men dans le même titre. Et arrêter
Oui.
cette formule de X-Men Extra et la laisser que pour des mini-séries, c'était beaucoup plus intelligent.
Oui. Mais en tout cas, on pourra en parler des heures parce que les X-Men sont publiés depuis des années en français. Et le problème, c'est que voilà, pour vraiment comprendre l'univers des X-Men et des mutants, il faudrait pratiquement faire un spécial, mais ce serait vraiment très
Ah non,
compliqué parce que c'est.
non, 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 ça va être trop chaud
Oui, voilà.
là.
C'est
Ouais, ça va être trop
là, ce
chaud parce
serait
que
en 20 parties,
je pourrais
donc
en
c'est pas
parler
possible.
15 heures d'affilée et avoir encore des choses à dire. Donc,
Oui, donc voilà.
Et pas forcément pour cracher dessus, hein, bien au
Oui,
contraire.
non, mais sûr.
Donc non, mais bon, c'est vrai que pour l'histoire principale de la trame générale des X-Men, il faut lire X-Men. Pour des histoires qui se déroulent dans le monde mutant, mais qui sont plus à part, il faut lire Astonishing X-Men. Et notamment, Astonishing, comme tu disais, c'était un relaunch total de l'univers X. Pas vraiment, en fait. C'était une sorte d'Ultimate X-Men au début, dans sa propre continuité, mais toujours sur la Terre 616, bah, écrit par Joss Whedon, et puis depuis que c'est Warren Ellis, bon, c'est pareil, quoi. On se demande un petit peu où ça se place. C'est vraiment étrange. D'ailleurs, aux États-Unis, le concept Astonishing est devenu vraiment une ligne en elle-même, où les choses qui s'y passent ne se passent pas dans la continuité.
Oui, ou en tout cas c'est des histoires vraiment en parallèle, qu'on peut pas vraiment placer, mais qui font référence à des choses qui se sont déroulées dans l'univers 616 malgré tout.
Donc voilà, et quand tu parles aussi de l'arrivée par exemple d'X-Force dans Utopia, bah comme c'est un crossover qui touchait toute la branche X-Men, c'est normal qu'on voit les autres équipes passer, quoi.
Ouais, voilà.
Alors, attends-toi à la même chose avec Necrochat qui arrive le mois prochain, qui devrait commencer le mois prochain normalement. Et puis après, il y aura Second Coming d'ici 6 mois à peu près, je pense.
Ouais, qui va rassembler toutes les séries.
Ouais, toutes les séries. Donc voilà, j'espère qu'on a réussi à répondre à peu près à ta question. C'est pas facile.
Non, c'est pas facile, ouais. C'est vrai
surtout
que c'est,
sur un sujet c'est... comme les X-Men. Mmh. Et n'hésite pas à nous recontacter si jamais il y a encore des choses que tu ne vois pas. Enfin, ou alors nous, si on n'a pas été très clair. Voilà. Il ne faut pas hésiter. Bon, bah là, on a fait le tour des mails. On a fait le tour des reviews. Je crois que c'est le moment de se quitter. Hein.
On va chanter une chanson.
Pour ouais. Et puis pour moi, de partir embaucher. Surtout.
Surtout. Donc je vais chanter tout seul.
On se retrouve d'ici une quinzaine de jours pour la deuxième partie du mois hyper chargée en sortie. Encore falloir faire des choix difficiles dans ceux dont on va parler et ceux dont on va laisser de côté.
Ça va nous crever le cœur, ça va nous déchirer le cœur. Ouais.
Vous pouvez nous retrouver sur le site, bien évidemment, nous laisser des commentaires pour réagir au podcast, pour nous poser des questions, tout ça. Vous pouvez nous envoyer des mails, comme l'ont fait Gambs, Nono et King Edgar.
Le King désolé. Edward.
Désolé. Ouais. Des Roland Shakespearean, peut-être, je sais pas. À force de lire du Thor. Vous retrouvez tous les épisodes sur iTunes, bien évidemment. Vous nous retrouvez aussi sur Facebook et sur Twitter. Et j'ai fait le tour. Et n'oubliez pas de faire une petite visite à nos partenaires Cables Chronicles. Et si vous avez participé au jeu concours, de continuer, bien sûr, et de vérifier si vous n'avez pas gagné cette merveilleuse statuette de Psylocke.
Voilà.
Voilà. Tu vois autre chose à rajouter?
Non, là, strictement rien. Je vais même partir dormir, je pense.
Ouais. Il y en a qui ont de la chance.
Ouais. Bon courage, Steve. À plus tard.
Sur ce, on se retrouve donc d'ici une quinzaine de jours. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.
Ciao à tous.